Salut.
Bonsoir Mathieu et bonsoir à votre équipe et sauvage, merci aussi. Merci pour votre vraie bonne humeur essentielle en ce moment qui arrive vraiment jusqu'à nous, hein, dans nos salons ou ailleurs. Demain dès 16h, le meilleur de la semaine. On vous retrouve lundi avec grand plaisir Mathieu. Salut, bon week-end.
18h, 20h,
votre grand journal du soir.
Nathalie Lévy.
Bonsoir à tous, bienvenue, je suis ravie de vous retrouver pour votre grand journal du soir. Nous sommes éparpillés, vous le savez, chacun chez soi, mais néanmoins très proches, rassemblés grâce à la magie de la radio pour vous informer. À la une de l'actualité ce soir, le quatrième jour de confinement et le coup de gueule, il y a 2 heures, du ministre de l'Intérieur contre les imbéciles qui ne le respectent pas, ce confinement. Contrôle renforcé ce week-end, notamment dans les gares. On en parle dans un instant avec vous Isabelle Millet. Bonsoir Isabelle.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous.
À 18h20, nous, face au confinement, face à ces moments pénibles, inédits, et après, quid de notre société? Comment se relèvera-t-elle? Comment ressortira-t-elle? Peut-être profondément transformée? En tout cas, je poserai la question, les questions au neuropsychiatre Boris Cyrulnik. Il sera mon invité, il est technologue, écrivain également, il me répondra dans 20 minutes. 18h30, les grandes voix, avec les dernières informations, leur décryptage, et avec vous au 39-21. Et puis à 19h30, on va vous donner plein de conseils. Promis, pour ce week-end très particulier, pour se cultiver, pour lire, pour se parler, pour se détendre aussi, vous pourrez interroger, comme chaque soir, le docteur Jimmy Mohamed via le standard, mais aussi via les réseaux sociaux. Hashtag radio ouverte, hein, vous connaissez l'adresse. Voilà pour ce programme dense qu'on fabrique avec toutes les équipes d'Europe 1 et qui reste mobilisée, vous l'avez compris, à vos côtés, fière et heureuse de vous informer jusqu'à 20h.
Vous écoutez Europe 1, il est 18h.
Nous avons donné des instructions très claires pour que des contrôles soient faits dans toutes les gares, dans tous les aéroports.
Le ministre de l'Intérieur réaffirme la fermeté du gouvernement. Pas de serrage de vis, mais une application beaucoup plus stricte des consignes données aux policiers et aux gendarmes chargés de faire respecter le confinement.
À Nice, la municipalité fait appel à un drone pour veiller justement à ce que les habitants fassent preuve de civisme.
Rappel des consignes relatives à l'épidémie de Covid-19. Tous les déplacements hors du domicile sont interdits.
L'urgence, c'est aussi de maintenir l'activité économique en France. Alors, quid des congés payés en cette période de confinement? Eh bien, le gouvernement veut autoriser les employeurs à avoir les coudées franches sur le sujet.
Le gouvernement qui entend, Isabelle, également la colère des chauffeurs routiers privés ces derniers jours, hein, des services indispensables dans les aires d'autoroute.
Et puis le championnat de France de foot, interrompu le temps du coronavirus, bien sûr, pourrait-il se poursuivre jusqu'à la mi-juillet? C'est ce que propose en tout cas le président de la fédération, sauf qu'il va falloir revoir certains contrats et trouver des aménagements. La Bourse de Paris a terminé ce soir en forte hausse de 5,01% à 4048 points.
Et la douce voix d'Anissa pour nous livrer la couleur du ciel de ce week-end. Ah, je tremble.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous. Ah, ce week-end, il va être un petit peu moins printanier que la semaine que nous venons de vivre, surtout sur la moitié nord. Demain, nous aurons encore quelques averses. Je vous donne tous les détails à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Isabelle Millet, Nathalie Lévy.
Faire respecter de façon plus stricte ce confinement, c'est donc la priorité du gouvernement face à l'indiscipline. On la constate encore tous les jours face à l'indiscipline de certains Français.
Et oui, alors qu'un nouveau conseil de défense s'est tenu cet après-midi, c'est le 6e déjà, le ministre de l'Intérieur a de nouveau lancé un appel. On ne plaisante pas avec le confinement. Christophe Castaner parle même de combat.
Ce que nous constatons, c'est que les dérogations nécessaires, utiles pour la vie des Français, sont exploitées, détournées par quelques-uns. Et qu'au moment où je vous parle, chacun a en tête ceux qui, même en faisant une déclaration, cherchent à ruser, cherchent au fond à faire les malins pour se croire des héros parce qu'ils auraient détourné la règle. Il ne s'agit pas pour nous de sanctionner. Mais il s'agit de protéger. Et donc, s'il n'a pas été question ce matin de durcir les mesures qui sont mises en œuvre, parce que nous les savons difficiles, il a été décidé que leur mise en œuvre serait appliquée de façon plus stricte encore. Nous avons donné des instructions très claires pour que des contrôles soient faits dans toutes les gares, dans tous les aéroports, et pour que les déplacements qui sont possibles le soient que dans le cadre des autorisations nécessaires, pas dans le cadre des loisirs. De la même façon, nous sommes vendredi. Le week-end approche, il fera certainement beau un peu partout en France. Et il ne s'agit pas de se retrouver sur une plage, sur une place publique, de se retrouver sur les berges de la Seine. C'est un combat que nous menons. Il implique des règles strictes, mais simples. Ne cherchons pas à les détourner, sinon nous sanctionnerons.
Un combat, dit ce soir le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, qui indique par ailleurs que la prolongation des mesures de confinement n'est pas d'actualité pour l'instant, que les policiers municipaux en renfort de la police nationale pourront prochainement verbaliser, eux aussi, et qu'il n'y aura pas pour l'instant de couvre-feu national, mais dit-il que les initiatives locales sont les bienvenues. Initiatives comme celle de Nice, par exemple, qui a choisi de déployer les grands moyens pour faire respecter ce confinement. Frédéric Michel, on vous retrouve sur place. Frédéric, la municipalité a même décidé de faire appel à un drone et de fermer la promenade des Anglais.
Effectivement, Isabelle, depuis 14 heures, la promenade des Anglais, notamment son trottoir sud, côté mer, est fermée par arrêté municipal. Des barrières ont été posées tout le long de cette promenade mythique et d'autres lieux publics dans la ville ont désormais également été interdits. Alors, trop de monde profite du beau temps en bravant l'interdiction de sortir et de se réunir. Le préfet des Alpes-Maritimes a donc sollicité une entreprise privée pour épauler à l'aide d'un drone les forces de l'ordre. Ce drone, vous l'entendez derrière moi, est équipé d'un haut-parleur et ordonne à tous de rester chez soi.
Rappel des consignes relatives à l'épidémie de Covid-19. Tous les déplacements hors du domicile sont interdits.
Alors ce drone est utilisé à Nice et à Cannes, mais d'autres mesures ont été prises pour notamment frapper au porte-monnaie les contrevenants, car parfois c'est la seule façon de faire comprendre les choses. Il en coûte désormais 135 € si on ne respecte pas le confinement. Et les policiers municipaux, vous l'avez dit, vont pouvoir à leur tour émettre ces contraventions de quatrième classe. Richard Gianotti est le directeur des sécurités et chef de la police municipale de Nice.
Dans le cadre de l'examen de la nouvelle loi portant sur l'état d'urgence sanitaire, et après promulgation de la loi, les policiers municipaux seront compétents pour verbaliser le non-respect de cette mesure de confinement. Il est malheureux pour protéger nos concitoyens qu'on en arrive à les verbaliser alors que le bon sens commande de rester à la maison pour se protéger soi-même et pour protéger ses proches.
Et le maire de Nice, Christian Estrosi, lui-même atteint par le virus, a annoncé une mesure encore plus forte, le couvre-feu dans sa ville. L'arrêté est en cours de rédaction et pourrait s'appliquer dès 20h ce soir, mais cela reste à confirmer.
Merci beaucoup Frédéric Michel. C'est donc la dernière info de cette soirée. Un couvre-feu à Nice en théorie à partir de 20h ce soir. Merci Frédéric. En direct de Nice à Ajaccio, pour soulager les services de réanimation, un porte-hélicoptère amphibie de la Marine nationale va évacuer ce week-end une dizaine de malades qui seront placés en réanimation dans les hôpitaux de la Côte d'Azur. Et puis à Mulhouse, les préparatifs pour le déploiement de l'hôpital militaire de campagne ont débuté. D'ici une semaine, en théorie, 30 lits seront installés pour accueillir les malades et pour soulager les hôpitaux du Grand Est.
Et ils sont indispensables au maintien de la vie économique de notre pays, les transporteurs routiers. Je posais la question d'ailleurs à Jean-Baptiste Djebari il y a 48 heures de cela. Sans eux, aucune livraison et donc aucune vie possible. Ce sont eux qui ravitaillent les commerces notamment. Et ces derniers jours, ils étaient très en colère.
Oui, effectivement, pour eux qui vivent dans leur camion, loin de chez eux, les services fournis par les aires d'autoroute sont bien sûr indispensables. La douche, la restauration. Or, ces derniers jours, ils ne pouvaient pas en profiter car beaucoup étaient fermés. Aurélien Fleurot, le gouvernement a décidé de prendre les choses en main.
Oui, et on peut dire que les choses commencent à revenir dans l'ordre. À partir d'aujourd'hui, le ministère des Transports nous a en tout cas indiqué que beaucoup de stations d'autoroute sont en train de réactiver leurs services, comme l'accès aux sanitaires. Les relais routiers qui permettent la vente à emporter sont aussi, nous dit-on, en train de rouvrir petit à petit. Et pour que la situation évolue, le gouvernement a donc mis un petit coup de pression à la fois sur les sociétés d'autoroute et sur les exploitants de ces aires et des stations-service qui en dépendent. La consigne a été passée de veiller à ce que même quand l'accès à l'intérieur de l'air est filtré, eh bien les sanitaires et les douches restent accessibles. Pour l'accès à la nourriture, il a été demandé aux exploitants des boutiques d'autoroute de mettre en place un système de passe-plat pour que les conducteurs de poids lourds puissent manger, puisque bien sûr, les restaurants sont fermés. Et pour que les routiers n'aient pas de mauvaises surprises sur leur trajet, qu'ils puissent anticiper au mieux, Bison Futé doit publier d'ici la fin de journée une carte de France actualisée avec tous les sites ouverts.
Les précisions d'Aurélien Fleureau du service économie d'Europe 1. Comment encourager et récompenser les salariés qui continuent à travailler, parfois la peur au ventre, malgré l'épidémie? Le ministre de l'économie invite les entreprises à leur verser une prime de 1000 euros défiscalisée, prime qui pourra aussi profiter au personnel hospitalier. Par ailleurs, le sujet des congés payés est particulièrement sensible, vous le savez. Le Parlement examine en ce moment un projet de loi en urgence qui permettra au gouvernement de légiférer par ordonnance, en vue notamment d'autoriser Olivier Samin, les employeurs, à fixer unilatéralement les dates de vacances de leurs salariés.
Oui, l'idée du gouvernement, c'est de donner de la latitude aux entreprises dans cette période hors norme pour réorganiser des congés payés, alors que la loi, aujourd'hui, encadre strictement les choses et n'autorise l'employeur, dans certaines circonstances exceptionnelles, à modifier les dates de départ qu'à la condition de respecter un délai de prévenance d'un mois. Le projet de loi examiné depuis 2 jours au Parlement vise à permettre à tout employeur d'imposer ou de modifier unilatéralement les dates de prise d'une partie des congés payés, et ce, sans respecter le fameux délai d'un mois. L'entourage de Muriel Pénicaud considère que c'est un effort raisonnable demandé aux salariés, qui doivent avoir conscience du fait que l'État met en place un dispositif jamais égalé dans l'histoire pour éviter les licenciements et que chacun, du coup, doit faire une partie du chemin. Un amendement voté il y a quelques heures par le Sénat encadre cette latitude nouvelle donnée aux entreprises. Il prévoit que seulement 6 jours ouvrables de congés payés pourraient être imposés aux salariés par l'employeur sans observer de délai de prévenance. C'est le côté unilatéral de la décision de l'employeur qui ne passe pas du côté des syndicats. La CFDT, par exemple, considère que seul un accord négocié dans l'entreprise peut autoriser une telle dérogation.
Les précisions d'Olivier Samin du service économie d'Europe 1. Et puis notez qu'à l'instant, l'Union européenne vient d'annoncer une suspension inédite des règles de discipline budgétaire afin que les États membres puissent dépenser autant que nécessaire pour lutter contre les conséquences économiques du Covid-19. On aura bien sûr l'occasion d'y revenir. Et puis il est là, lui aussi, comme tous les jours, pour répondre à vos questions nombreuses. Bonsoir Dr Jimmy Mohamed.
Bonsoir Isabelle.
Les auditeurs d'Europe 1 qui vous suivent sur les réseaux sociaux ont été interpellés par l'un de vos derniers tweets dans lequel vous vous inquiétez car beaucoup de vos confrères tombent malades et vous évoquez Biogroup qui teste en drive les personnels de santé. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ?
Alors c'est vrai que désormais, des médecins de ville, notamment dans les laboratoires, vont petit à petit avoir la technique pour dépister des patients, notamment des médecins qui seraient positifs. Mes confrères ont rapporté toutes les difficultés à se faire dépister lorsqu'ils appellent le 15. Et un laboratoire du groupe Biogroup permet à des médecins de se faire dépister. Et donc on vient comme au drive, on reste dans sa voiture. Le technicien, le médecin vous propose de le faire en auto-prélèvement puisqu'on est formé à ce geste. On a les résultats le soir même, donc bien plus rapide qu'à l'hôpital. Néanmoins, il nous témoigne de difficultés. Il faut un appel notamment aux entreprises, aux particuliers qui auraient des masques, des gants, des surblouses, des surchaussures, tout matériel médical qui permettrait notamment de protéger les personnes qui prélèvent. Ils sont en capacité de prélever plus de monde, mais ils manquent de moyens. Donc si jamais vous êtes une entreprise et que vous souhaitez faire un don, eh ben, tous les dons sont les bienvenus pour aider les soignants du quotidien.
Merci beaucoup, docteur Jimmy Mohamed. Bon courage, effectivement, à tous les soignants. On rappelle que nos auditeurs peuvent vous interroger à tout moment sur Twitter avec le hashtag Radio Ouverte ou bien en laissant un message au 3921. On vous retrouve notamment tout à l'heure à 19h30 et bien sûr dans la matinale de Mathieu Béliard et évidemment aux côtés de Mélanie Gomez dans son rendez-vous tous les jours à 15h.
Voilà le docteur Jimmy Gomez qui répond présent effectivement sur l'antenne d'Europe 1. Alors Isabelle, depuis toujours, hein, mais encore plus particulièrement depuis le confinement et cette crise qui nous rapproche au fond, Europe 1 essaye au maximum d'être à vos côtés, au plus près de vos préoccupations. Et nous avons décidé en partenariat avec BVA et Orange de mener une enquête quotidienne sur votre moral, sur le moral des Français.
Comment allez-vous? Comment vivez-vous cette épreuve collective à titre individuel? Nous avons choisi d'interroger un échantillon représentatif de 1000 Français de plus de 18 ans. Et voici, Nathalie, les enseignements du jour. 72% des Français pensent que le pire est devant nous. C'est un résultat qui progresse légèrement par rapport à hier. Le moral des Français, pour autant, reste stable, mais plutôt en berne, avec une note moyenne qui reste de 6,1 sur 10. Par ailleurs, les craintes de nature économique semblent progresser. 37% des salariés et des indépendants sont inquiets quant à la capacité de leur entreprise à faire face à la crise et 44% inquiets en ce qui concerne la situation financière de leur foyer dans les semaines qui viennent. Enfin, 60% des sondés jugent difficile de faire leurs courses, évidemment, et les trois quarts trouvent compliqué aussi de maintenir une vie sociale.
Et pour cause. Et vous retrouvez le détail de cette enquête sur notre site internet europe1.fr. Encore quelques infos en bref, Isabelle. Mais d'abord, juste vous signaler que s'agissant du moral des Français, on l'a vu, ça progresse de 2 points. Je serai dans quelques instants avec le neuropsychiatre, ethnologue et écrivain Boris Cyrulnik, précisément à 18h20. Donc dans 6 minutes, restez au rendez-vous. On parlera du moral des Français, mais on élargira bien sûr aux questions sociétales.
Alors je voulais vous dire aussi qu'en Tunisie, le président vient d'annoncer aujourd'hui un confinement général du pays, que l'Espagne a dépassé la barre des 1000 décès, que la Bavière est le premier état régional d'Allemagne à ordonner le confinement de sa population. Et là-bas, on ne plaisante pas. Ceux qui ne respecteront pas cette consigne seront sanctionnés d'une amende de 25 000 euros. Vous avez bien entendu, 25 000 euros. Aux États-Unis, les 40 millions d'habitants de Californie et ceux de New York doivent désormais, eux aussi, rester chez eux. Mais Donald Trump exclut ce soir un confinement de l'ensemble du pays. Et puis, vous savez que tous les championnats sportifs, pratiquement dans le monde entier, sont à l'arrêt. Quand vont-ils reprendre? Difficile, bien sûr, de prévoir quoi que ce soit. Néanmoins, le président de la Fédération française de foot, Noël Le Graët, estime que la Ligue 1 pourrait se poursuivre jusqu'à la mi-juillet, Cyril de la Morinerie.
Oui, c'est 15 jours plus tard que les préconisations de la Ligue de football, car Noël Le Graët ne voit pas comment il serait possible de terminer le championnat fin juin avec en plus les matchs de l'équipe de France et la Ligue des champions. Avec ces 15 jours de plus, ça passe sans problème, explique le patron du foot français. Seule difficulté, et cela concerne les acteurs du jeu. Certains contrats arrivent à échéance fin juin. En clair, début juillet, plusieurs joueurs seront libres. J'ai donc contacté le président de l'UNFP, le syndicat des joueurs. Philippe Piat propose au club de prolonger les contrats d'un mois dans les mêmes conditions.
Il reste une infime minorité de joueurs qui seront en fin de contrat. Soit ils veulent arrêter la carrière, soit ils ont des offres d'un autre club étranger. Et donc, peut-être qu'ils refuseront, mais ça sera une extrême minorité.
Noël Le Graët va prochainement envoyer un courrier à l'UEFA pour faire cette proposition. La Ligue se rangera derrière l'avis de la fédération, qui de toute façon est décisionnaire. Rappelons que le football français a déjà dû s'adapter par le passé. Souvenez-vous de mai 68. Cette année-là, les barrages du championnat s'étaient joués au mois de juillet.
Cyril de la Morinerie du service des sports d'Europe 1.
Et merci Isabelle Millet. On vous retrouve évidemment à 18h30 avec de nouvelles infos. On va se tourner vers Anissa. La météo importante, parce qu'on souffle un peu quand on regarde le ciel et qu'il est bleu.
Oui, effectivement, Nathalie, Anissa, nous aurons...
Mais vous restez branchée, Isabelle.
Oui, restez branchée, Isabelle. Ne nous quittez pas, parce que vous revenez à 18h30. Bon, du côté du ciel, nous aurons encore quelques ondées demain sur toute la moitié nord du pays. Le ciel est très couvert, avec sur le quart nord-est d'ailleurs, des Ardennes jusqu'à l'Alsace, de faibles averses. Au sud de la Loire, le ciel est beaucoup plus dégagé, comme d'habitude depuis quelques jours maintenant, avec d'ailleurs sur le golfe du Lion des entrées maritimes accompagnées du vent d'autant qui pourra souffler jusqu'à 70 km/h en rafale. Dans l'après-midi, les averses vont gagner la moitié sud. Le ciel de la moitié nord, lui, va rester très couvert. Alors, quand je vous parle des averses sur la moitié sud, ça sera sur les reliefs et en altitude. Donc, vraiment rien de très inquiétant demain. On n'attend pas des grandes eaux. Rassurez-vous, c'est quelques gouttes par-ci, par-là. Il n'y a finalement que sur la Nouvelle-Aquitaine que la journée sera belle demain, très ensoleillée et sans aucun nuage. Les températures, elles baissent. Nous aurons des gelées matinales dans les vallées alpines et les Pyrénées. Et en moyenne, 4 à 8 degrés le matin jusqu'à 10 en Méditerranée. Et puis dans l'après-midi, ça baisse assez franchement. 8 à Nancy et Strasbourg, 11 à Paris. On avait 17 aujourd'hui, on avait 19 avant-hier. 14 à Dijon, 19 à Marseille et 21 à Cahors.
Europe 1.
Et votre grand journal du soir se poursuit. Nathalie Lévy avec votre invité dans un instant.
Oui, on va prendre un peu de recul ce soir avant le week-end. On va réfléchir, se poser sur cet épisode inédit, ubuesque, que nous vivons tous en même temps à travers le monde d'ailleurs. Quelles sont les conséquences sociales de ce moment? Quels en sont les effets à terme? Je vais poser toutes ces questions essentielles au neuropsychiatre Boris Cyrulnik. Il est mon invité dans 2 minutes.
Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Nathalie Lévy et votre invitée ce soir, Nathalie, qui va répondre à toutes ces questions. Comment notre société peut résister à cette crise et devenir résiliente? Comment cette crise peut-elle nous changer? Vous recevez ce soir, Nathalie, le neuropsychiatre Boris Cyrulnik.
Bonsoir, Boris Cyrulnik.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être avec nous en direct sur Europe 1. Vous êtes également ethnologue, écrivain. Vous avez publié, entre autres, là, dernièrement, Préparer les petits à la maternelle chez Odile Jacob. Et puis la nuit, j'écrirai des soleils. Dites-moi, Boris Cyrulnik, qu'est-ce que l'on vit aujourd'hui ? On savait, nos voisins étaient concernés. Comment qualifiez-vous ce que nous vivons depuis 4 jours ? C'est un plongeon dans le noir, dans l'invisible ?
C'est normal. Hein. Au début d'un traumatisme, on est toujours un peu sidéré, on est même parfois hébété. On a du mal, on peut à prédire. On a beaucoup trop d'informations à régler en même temps. Ces informations sont souvent contradictoires et c'est normal qu'au début, on soit un peu confus avant de prendre une direction et de se mettre en ordre de marche et de résistance contre le virus.
Vous qualifiez ça comment ? Emmanuel Macron a parlé de guerre régulièrement. On a entendu Christophe Castaner tout à l'heure parler de combat. Vous, quel nom vous donneriez à cette séquence inédite, ubuesque que l'on traverse à l'international ?
Ah, moi j'appellerais ça la résistance. Hein. On est dans l'affrontement, on est envahi par un virus. C'est un moment de résistance. Quand l'ennemi est visible, on a une stratégie comportementale. On peut fuir, l'agresser, se cacher, s'associer pour l'affronter. C'est la peur. Tandis que là, c'est l'angoisse. L'ennemi est invisible. On ne sait pas d'où il vient. On ne sait pas quelle forme il a. On ne sait pas combien de temps il va durer. Donc c'est normal qu'au début, on ait des réactions désorganisées. Mais ces réactions désorganisées aggrave le pouvoir du virus. Donc c'est pour ça que dès que le confinement sera bien en place, probablement on sera protégé et le virus s'éteindra.
Alors la question de la durée de la crise, évidemment, elle se pose chaque jour. Si ça dure véritablement 5 semaines, 6 semaines ou au-delà, est-ce qu'on peut imaginer avoir à faire face à des violences entre individus, mais aussi des religions ou des nations qui seraient prises pour cible, Boris Cyrulnik, qui se verraient reprocher d'être peut-être les auteurs de cette crise ou les complices ?
Alors quand l'ennemi est visible, on peut s'associer pour l'affronter, c'est un acte de résistance, c'est un acte de guerre. Quand l'ennemi est invisible, le danger, c'est de trouver un bouc émissaire. Mmh. Et généralement, le bouc émissaire, c'est le faible, c'est l'étranger, c'est le fou, le juif, l'arabe, c'est celui qui est minoritaire et par qui le mal arrive. Et c'est assez régulier, quand l'ennemi est invisible, ce qui est le cas, on trouve un bouc émissaire, ce qui aggrave tout.
Vous nous dites
tout,
que ce sera inévitable,
rien.
Boris Cyrulnik ?
C'est très fréquent, c'est la règle même. Hein. Alors maintenant que les médias ont un rôle éducatif, j'espère, je pense qu'on pourra l'éviter. Mais à l'époque où les médias n'avaient pas de rôle éducatif, c'était la rumeur qui se déclenchait. Et après chaque épidémie, quand il y avait une eau polluée, il y avait un pogrom. Quand au Proche-Orient, quand l'eau est polluée, il y a encore aujourd'hui un pogrom, une attaque. On trouve l'adversaire puisqu'on ne sait pas d'où vient la pollution. Mais là, les explications des scientifiques, médiatisées par les scientifiques eux-mêmes et les journalistes, je pense qu'on pourra éviter ça.
Alors la violence peut-être, mais vous le dites, peut-être sera-t-elle évitée. Peut-être aussi demain des pénuries alimentaires, essence, électricité et j'en passe. Ce ne sera pas sans conséquence, si c'est notre réalité, ce ne sera pas sans conséquence sur nos politiques, sur nos cultures ?
Ah ben forcément, inévitablement, quand il y a une catastrophe analogue qui se passe, et ça se passe régulièrement depuis que l'homme est sur Terre, hein, depuis Sapiens, il y a 200 000 ans, il y a régulièrement des catastrophes naturelles, éruptions, inondations, bacilles, virus et des catastrophes culturelles, guerres ou économies qui s'effondrent. Et à chaque fois, on est obligé de changer de culture. C'est inévitable. C'est-à-dire que en 1348, quand la peste est arrivée à Marseille, les gens ont fui. Ils sont montés vers le nord pour se protéger, ce qu'on peut comprendre. Mais comme il n'y avait pas d'explication, ils se sont enfuis. Et en s'enfuyant, ils ont amené la peste au nord, à Aix, en Avignon. Et les survivants se sont enfuis à leur tour. Et 2 ans après, l'Europe, il y avait 1 mort sur 2. Un Européen sur 2 était mort 2 ans après parce que les gens avaient eu une réaction mal adaptée. Donc là, le confinement est la réaction adaptée. Plus on se confine, plus le virus s'éteindra tôt. Mais les gens ont du mal à comprendre, puisque le virus est invisible. Alors ils disent, ben non, je veux me promener, l'air est beau, il fait doux. Et oui, et ben c'est comme ça que je vais aller chez dans ma famille, dans le Midi, en Bretagne. Et c'est comme ça qu'on répand le virus.
Plus largement, Boris Cyrulnik, des changements culturels, sociaux, politiques à prévoir donc après cette crise, sans doute au niveau politique, donc je le disais, une réorganisation qui devra venir de qui ? De l'État ? De la société ?
Alors, après la peste de 1348, avant la peste, c'était l'art religieux qui gérait les sociétés. Et ensuite, après la peste, que ça s'est reproduit à chaque fois, on a vu changer les formes d'art, c'est-à-dire l'expression des préoccupations de la population. Et on a vu se revaloriser le foyer. On a vu apparaître des peintures avec du gibier, des fruits, des bouteilles de vin, des tapis sur les tables. L'art a changé parce que la valeur était totalement différente. Et puis surtout, on a vu changer la hiérarchie des valeurs. Les serfs existaient avant puisque les hommes étaient nombreux et travaillaient la terre. Et étaient, quand l'aristocrate vendait sa terre, il vendait les hommes qui travaillaient sa terre. Or, après la peste, il y a eu tellement de morts qu'il a fallu courtiser les hommes, les paysans. Et là, ils se sont fait payer. Et du coup, c'est devenu un métier, alors qu'avant, c'était un servage. Et ce processus-là se fait régulièrement. Après la Seconde Guerre mondiale, il y avait une dette faramineuse. Donc, il y a eu une inflation, il y a eu des décisions politiques, économiques à prendre. Et là, je ne suis pas compétent. Mais en revanche, on a vu changer la culture. Quand je suis arrivé au monde avant la Seconde Guerre mondiale, il n'y avait pas de sécurité sociale, il n'y avait pas de caisse de retraite. La seule solidarité, c'était le couple.
Donc Boris Cyrulnik, des crises inévitables pour faire évoluer finalement l'humanité, en quelque sorte, hein, si je vous entends bien. Je voudrais vous interroger encore sur un point, parce qu'on a peu de temps. On l'a vu ces jours-ci, l'eau, elle est de plus en plus claire à Venise. Oui, ça a l'air anecdotique comme ça, mais finalement, c'est fondamental. Les poissons, les oiseaux aussi qui reviennent, la pollution de l'air qui diminue en Europe. Ce confinement, il a un impact sur notre planète, ce répit offert à l'environnement, cela peut provoquer un réveil aussi, là, des consciences pour notre planète.
Mais bien sûr, les Chinois ont eu, je crois, à peu près 4000 morts, sans compter les malades, et il y a déjà une diminution de 8 à 10 000 entrées de moins dans les services de cancérologie pulmonaire, parce que la pollution a tellement diminué que les bronchites, les bronchiolites des enfants ont déjà diminué. Donc c'est presque une manipulation expérimentale qui donne raison aux écologistes.
Mais comment faire, Boris Cyrulnik ? Bien sûr, ça leur donne raison, mais comment ensuite pérenniser ça ? On ne pourra pas continuer à vivre dans le confinement, on va certainement retourner à nos engins électroniques et à nos automobiles, etc. etc. Comment essayer, en tout cas, de modifier notre quotidien, ça se fera de toute façon, vous pensez ?
Mais oui, ça va se faire, parce que déjà, puisque ça donne raison aux écologistes, je pense qu'il va y avoir des gens qui vont, en effet, comme vous venez de le dire, qui vont vouloir redémarrer le sprint de la consommation des automobiles, de l'électricité, etc. Mais une grande partie de la population va s'y opposer. Et je pense qu'on va ralentir la culture, on va ralentir le sprint de nos enfants. Les conditions matérielles d'existence humaine n'ont jamais été aussi bonnes. Il n'y a jamais eu autant de dépression, d'angoisse et d'accidents psychiatriques. L'OMS dit que la psychiatrie est déjà le premier budget de tous les États. Ça ne peut pas durer comme ça. Il faut absolument ralentir. Et bien sûr, les industriels vont vouloir recommencer. Mais là, je crois qu'ils auront une opposition.
Ah oui. Des changements culturels et sociaux donc qui ne se font pas finalement sans crise. C'est ce que vous nous dites, Boris Cyrulnik, ce soir sur Europe 1. Merci beaucoup, Boris Cyrulnik, neuropsychiatre, ethnologue et écrivain, de nous avoir répondu ce soir sur notre avenir à tous, finalement, ce soir sur Europe 1. Merci.
Europe 1. Et votre grand journal du soir se poursuit sur Europe 1 avec, dans un instant, Nathalie Lévy.
Eh bien, le débat des grandes voix, ils ont répondu présents toute cette semaine. Ève Roger, Emmanuel Duteil, Mickaël Darmon, présents ce soir encore sur Europe 1. Ils vont se connecter depuis chez eux, leur salon, leur cuisine, comme ils veulent. On fait le point après ce nouveau conseil de défense qui s'est tenu aujourd'hui. À tout de suite.
Il est 18h30, vous écoutez Europe 1, votre grand journal du soir, c'est avec Nathalie Lévy.
Et votre rappel des titres, Isabelle Millet.
Et l'Union européenne annonce ce soir une suspension tout à fait inédite des règles de discipline budgétaire afin que les États membres puissent dépenser autant que nécessaire pour lutter contre les conséquences économiques du Covid-19. Ce soir, la Belgique décide de fermer ses frontières pour tout déplacement non essentiel. Le fret reste néanmoins possible. En France, pas de durcissement du confinement, mais les contrôles seront intensifiés afin que tous les Français respectent enfin les règles. Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, insiste sur l'importance capitale de respecter ces consignes. Dès ce soir, les contrôles seront renforcés dans les gares et les aéroports notamment. Pas question pour les Français de partir en week-end. Par ailleurs, le ministre estime que chaque commune ou région peut mettre en place des mesures ciblées localement. À Nice, par exemple, un couvre-feu devrait être décrété ce soir par la municipalité. À Paris, se promener sur les quais de Seine ou bien sur le Champ de Mars est désormais interdit. La police municipale va être mise à contribution pour épauler les policiers nationaux. Elle sera autorisée à mettre des amendes. Et puis, notez que l'OMS dit ce soir que l'exemple de Wuhan en Chine est un espoir face à la pandémie. L'OMS qui rappelle également aux jeunes du monde entier qu'ils ne sont pas invincibles.
Merci beaucoup Isabelle. On va vous retrouver avec un nouveau journal complet à 19h précisément. Anissa, on lève la tête, on regarde le ciel et on se dit...
Et on se dit qu'on va peut-être prendre une petite goutte dans les yeux si on regarde trop longtemps le ciel, surtout si vous habitez au nord de la Loire, Nathalie. Demain, c'est encore une France coupée en deux. Finalement, le même scénario qu'aujourd'hui. C'est-à-dire que toutes les régions qui se trouvent au nord de la Loire auront un ciel gris, plus nuageux, avec sur le quart nord-est, les Ardennes, l'Alsace, la Bourgogne, des averses assez fréquentes demain matin. Et puis au fil des heures, ces averses, elles vont s'affaiblir et puis elles vont se décaler vers le sud pour toucher les reliefs seulement. Donc rassurez-vous, demain il ne va pas pleuvoir beaucoup dans le sud, mais seulement sur les reliefs. Et en fait, la région où il fera le plus beau demain, c'est la Nouvelle-Aquitaine dans le sud-ouest. C'est vraiment une journée de grand soleil sans nuages. Attention au vent d'autant qui souffle toujours sur le bord de la Méditerranée. Les températures, comptez 4 à 8 degrés en moyenne demain matin et 10 à 21 degrés dans l'après-midi.
Europe 1.
Votre grand journal du soir se poursuit sur Europe 1 jusqu'à 20h avec vous Nathalie Lévy. Et jusqu'à 19h, c'est l'heure du débat des grandes voix. Comme chaque soir, à distance, depuis chez eux, nous retrouvons Ève Roger, chef du service Société d'Europe 1, Mickaël Darmon, éditorialiste, et Emmanuel Duteil, chef du service Économie d'Europe 1.
Présent les grandes voix.
Bonsoir
présent.
Nathalie.
Présent. Ah, présent, ils sont là. Bonsoir à vous. Bienvenue, je suis ravie de vous entendre, mais plus que jamais, si vous saviez. Finalement, à distance, c'est pas mal aussi. Hein. Bon, écoutez, un petit peu de sourire, mais évidemment, beaucoup d'informations avec vous, beaucoup de pédagogie aussi. Emmanuel Macron, on va commencer par le commencement, a réuni aujourd'hui un nouveau conseil de défense, avec évidemment Édouard Philippe, le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner. Et puis on a entendu le ministre de l'Intérieur dans le journal d'Isabelle Millet ainsi que dans son rappel des titres tout à l'heure parler de contrôle renforcé. Attention les Français, pas question de partir en week-end, pas question d'aller dans vos maisons secondaires. L'heure n'est plus à ça. D'ailleurs, fermeture des berges et du Champ de Mars, on l'entendait il y a un petit instant. Néanmoins, Mickaël Darmon, il y a des choses, il y a des bruits, il y a la rumeur, bien sûr. Et je voudrais savoir si on a une idée de ce qui peut se passer peut-être dimanche là avec une prise de parole d'Emmanuel Macron, une nouvelle prise de parole pour nous dire ben ce sera pas 15 jours mais ce sera peut-être 45 jours finalement. Est-ce que ça bruisse dans ce sens-là?
Ce qui bruisse en tout cas c'est l'officialisation de ce que on nous explique depuis plusieurs jours. Alors d'abord par des communiqués des instances de santé, puis par des confirmations des différentes instances et la porte-parole du gouvernement ce matin sur un probable prolongation du confinement. Après, il y a évidemment beaucoup de rumeurs, comme ce genre de période évidemment très très troublée. Il faut tout à fait faire le tri. Ce qui est clair, c'est que, et on le voit d'ailleurs maintenant dans différents endroits avec les arrêtés préfectoraux ou municipaux, c'est que l'état d'urgence sanitaire a fourni le cadre légal pour des tours de vis progressifs localisés, décentralisés au préfet qui représente l'État et qui ont la latitude pour juger si, selon une situation donnée sur leur terrain, eh bien, ils font monter d'un cran la restriction des libertés. On l'a compris avec l'exemple de Nice aujourd'hui, avec le plus frappant. Et d'ailleurs, on voit comment le maire de Nice va encore plus loin puisqu'il annonce un couvre-feu qui sera donc instauré sur sa ville. Donc l'état d'urgence sanitaire donne ce cadre, cette possibilité, cet outil donc de politique publique qui permet aux différentes instances de pouvoir, à leur manière, quand elles le décident, de serrer la vis un petit peu à chaque fois.
Un petit peu à chaque fois, serrer la vis et en même temps, si on a des précisions, donc... On a aussi beaucoup de questions. Ève Roger, on a beaucoup de questions aujourd'hui sur les masques. Cette pénurie de masques qui va peut-être être résolue là dans les prochaines heures parce qu'ils arrivent. Mais il y a des questions clairement. Pourquoi ? À quoi servent-ils vraiment ? Est-ce qu'il faut en porter quand on n'est pas porteur du virus ? Est-ce qu'il faut en porter pour se protéger ? Pourquoi n'a-t-on pas les masques en temps et en heure ? Bref, pourquoi la France manque-t-elle de masques ? Et la polémique, elle monte.
Ah oui, alors c'est presque une politique, une polémique. Politique, vous pourriez en parler avec Michaël Darmon.
Ce que je peux vous dire,
c'est que ces masques, ils arriveront dans les prochaines heures, mais seulement pour les professionnels de santé, et encore de façon très contingentée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est à 18 masques par professionnel de santé, ce qui est très très peu. Le ministre de la Santé le disait ce matin, on estime que la France a besoin de 24 millions de masques par semaine, et pour l'instant, on est loin du compte. Les entreprises tournent de 24 heures sur 24, mais donc on manque de masques. Alors, à la question, et Michaël vous dira pourquoi. À la question, ce qui est très important,
c'est porteur du virus.
Alors, la réponse est non. Alors, évidemment, non, parce qu'on en manque, parce qu'il faut les réserver au personnel de santé, et non, parce que ce n'est pas forcément nécessaire, parce que celui qui doit porter le masque, c'est celui qui est malade, c'est celui qui va tousser, c'est celui qui va éternuer vers vous. Donc c'est le porteur, celui qui a des symptômes, qui doit porter un masque.
Et c'est vrai mais pour se protéger, pardonnez-moi, ça a l'air idiot, mais se protéger...
Nathalie, quand vous protégez, Parfois, l'éternuement, ça arrive dans les yeux, même si vous avez un masque, et ça arrive sur vos mains, et c'est par les mains que le virus se transmet.
Mais on peut être porteur asymptomatique.
Alors ça, effectivement. Et là, vous avez raison, Nathalie. Vous êtes, à ce moment-là, on est parti de l'hypothèse qu'il n'y a pas assez de masques pour tout le monde. Donc, en fait, il y a des priorités. Les priorités, c'est 1, les personnels de santé, 2, les personnes malades, et 3, asymptomatiques. On ne sait pas combien on est. Tous les chiffres circulent, on ne sait pas. Et peut-être qu'il y a des gens qui sont asymptomatiques. De toute façon, il n'y en a pas. Donc, le peu qu'il y a, il faut vraiment le réserver au personnel de santé. Et puis, c'est vrai qu'il y a une petite polémique dans mon secteur qui commence à monter sur le fait que le virus pourrait circuler dans l'air. Alors là, je voudrais vous dire qu'il y a une étude qui a été faite et ils ont vaporisé le virus avec une sorte de vaporisateur. Et effectivement, le virus est resté dans l'air pendant 3 heures. Ce qui est important de dire, c'est que les petites gouttelettes du vaporisateur, elles sont légères. Et quand vous éternuez, ça tombe plus vite au sol. Donc il ne faut pas croire que le virus circule dans l'air.
Voilà. Et que le masque vous
est indispensable,
si vous n'êtes pas soignant.
Voilà. Et puis je vais vous dire une chose, si vous n'avez pas de masque, vous ne sortez pas. Et puis comme ça sera encore mieux.
Voilà. Ah, mais voilà, exactement. Comme ça, vous nous montrerez que vous avez compris le message. Voilà. Sabrina est avec nous depuis Rennes. Bonsoir, Sabrina. Vous êtes vous-même auxiliaire de vie. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous avez composé le 3921. Et Sabrina, vous ne disposez pas de masque ?
C'est ça, tout à fait. Donc, en fait, moi, on ne dispose pas de masque parce que moi, tout simplement, donc, je viens de Rennes. Et donc, les auxiliaires étaient censés passer en priorité avec les médecins, les infirmières, voilà. Sauf que le souci, c'est que comme notre virus n'est pas assez actif dans le département, nous ne sommes plus prioritaires. Et donc, les IDE, les médecins, ce que je peux comprendre, passent en priorité au niveau des pharmacies.
Et comme vous êtes auxiliaire de vie, peut-être avez-vous des personnes, des aînés, comme on dit, des personnes très âgées à votre charge que vous visitez en ce moment, c'est le cas ? D'accord.
C'est le cas, oui.
Comment faites-vous pour les protéger ?
Alors, pour les protéger, on prend on essaye de mettre la barrière, foulard, voilà, tout à fait, on se lave les mains au maximum. Sauf que pour tout ce qui est pour les aides à la toilette, les aides au repas, la distance de sécurité est un peu compliquée. Donc on fait au mieux, on se protège, protéger les bénéficiaires, mais malheureusement, comme je vous dis, nous, en Ille-et-Vilaine, le virus n'est pas
suffisamment étendu pour que vous soyez prioritaire.
Tout à fait,
On a bien compris. On vous souhaite évidemment plein de courage et bravo pour ce que vous faites et continuez à y aller parce que ces aînés, ces personnes isolées ont besoin de vous. Merci Sabrina de votre appel et évidemment on pense à vous, on vous soutient. Merci. Les masques, en deux mots, parce que Emmanuel Dutheil, je voudrais vous interroger bien sûr sur nos entreprises dans une seconde. En deux mots, Michaël Darmon, la polémique, elle monte parce que il y a 10 ans, la France, elle dispose d'un milliard de masques chirurgicaux, environ 600 millions de masques FFP2. On se demande où ils sont passés. Il y a eu des choix économiques.
Oui, alors bien entendu, tout d'abord, juste un petit préambule rapidement quand même. Il n'est pas question de se substituer à une commission d'enquête et de dire on commence à donner des leçons aux uns aux autres. Mais enfin, voyant la polémique et la colère de partout et l'inquiétude, on est obligé quand même de regarder les décisions qui ont été prises. Effectivement, vous l'avez dit, en 2011, il y avait 1,5 milliard de masques en stock stratégique décidés par le contrôle de l'État par des arrêtés administratifs successifs à partir de 2012. Et de 2013 surtout, suite donc à la discussion budgétaire, il a été décidé que l'État ne fabriquerait plus une partie des masques et laisserait aux employeurs, aux services, au secteur privé le soin de fabriquer les masques pour tous ceux qui ne sont pas du secteur hospitalier. Les stocks stratégiques n'ont pas été reconstitués et on arrive rapidement donc à cette pénurie qu'essaye d'éteindre actuellement le gouvernement actuel.
Bon. Emmanuel Dutheil, pendant ce temps, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, il appelle les entreprises à verser une prime aux salariés qui ont le courage de se rendre sur leur lieu de travail. Et oui, le sonnant est trébuchant pour motiver à continuer à y aller. Est-ce que ça va suffire? Comment on réagit à tout ça aujourd'hui dans le secteur?
Je peux dire que du côté des entreprises, certains disent c'est un petit peu tôt pour décider de cela, même si je veux dire que tous les chefs d'entreprise que j'ai en ligne disent on veut souligner le caractère exceptionnel de nos salariés parce qu'ils ont le courage de venir, parce qu'ils travaillent, parce qu'ils assurent la continuité soit du service public, soit par exemple dans la grande distribution de la chaîne alimentaire de tous ceux qui peuvent être se confiner. Malgré tout, tout le monde dit c'est beaucoup trop tôt pour réfléchir à une prime parce qu'on ne sait même pas comment on va sortir de cette crise. Donc il y a un sentiment que j'entends qui est volontaire pour apporter un soutien financier aux collaborateurs parce que tous les chefs d'entreprise sont conscients de l'effort qui est fait, mais beaucoup disent que c'est encore un petit peu trop tôt. Et par ailleurs, en ce moment même, on est en train de travailler du côté du gouvernement entre le ministère du Travail, donc Muriel Pénicaud, et le secteur du BTP, puisqu'ils sont en train de réfléchir à un cadre pour voir véritablement qui dans ce secteur a le droit de travailler et qui doit travailler, puisque je ne sais pas si vous aviez suivi ces dernières heures, mais le secteur du BTP était très remonté, qu'on l'oblige à travailler, a été très touché par les mots de la ministre du Travail qui disait que le secteur manquait de civisme. Ils ont vraiment été très peinés par cette attaque. Et donc là, d'ici quelques heures, on va apprendre a priori que certaines activités vont pouvoir repartir. Ce qui inquiète par exemple beaucoup le gouvernement, c'est les activités de négoce. Donc par exemple, tout ce qui peut être l'alimentation en produits de gravats, vous voyez, ce genre de choses pour qu'on puisse travailler. Et bien ça, a priori, ça va pouvoir repartir. Et donc une petite chaîne va repartir dans les heures ou dans les jours à venir.
On va se reparler dans un petit instant. Les grandes voix avec un Emmanuel Dutheil qui a la voix qui déraille. On est d'accord, vous allez bien?
Oui, c'est juste un petit chat dans la gorge. J'aurais dû me préparer la voix avant d'intervenir.
Ok, alors allez, quelques instants de pause pour vous retrouver en pleine forme. Les grandes voix tout de suite sur Europe 1, bien sûr. La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1 avec le débat des grandes voix jusqu'à 19h. Ils sont autour de vous, mais à distance. Nathalie Lévy, chez eux. Ève Roger, chef du service Société d'Europe 1. Michaël Darmon, éditorialiste. Et Emmanuel Dutheil, chef du service Économie d'Europe 1.
Oui, merci les grandes voix d'être au rendez-vous toute cette semaine pour nous informer, nous expliquer, faire de la pédagogie, préciser évidemment les décisions du gouvernement, ce qu'on entend un peu partout et ce qu'on a envie de vous voir développer. Alors typiquement, Ève Roger, on parle un peu plus encore de prolongement du confinement, on le disait avec Michaël Darmon, on parle aussi de mesures plus drastiques, c'est ce que disait Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, un peu plus tôt dans la journée. Parce que ça s'impose, il faut l'entendre, il faut le comprendre, il faut l'intégrer.
les spécialistes, depuis ce matin, je ne sais pas s'ils se sont donné le mot, mais ils disent tous à peu près entre un mois, six semaines, voire plus. Alors j'ai fait le calcul quand même, on a envie de le faire. Donc ça nous amène au 28 avril de prolonger
après les vacances scolaires.
Un mois et demi. Alors pourquoi il faut prolonger le confinement? Je crois qu'il faut comprendre bien que l'épidémie, elle ne va pas à la même vitesse en France, partout en France. On a vu qu'elle a commencé dans le Grand Est. On voit, on sait qu'elle va arriver en Île-de-France à partir de la semaine prochaine avec un pic sans doute début avril, vers le 1er avril. Et puis après, il y a d'autres régions qui vont suivre. Ça va être le cas dans les Hauts-de-France, peut-être en Auvergne et en Bourgogne-Franche-Comté. Et l'idée, c'est que ces pics, c'est pas un pic qu'il va y avoir, c'est plusieurs pics, les uns à la suite des autres. Alors on peut espérer que grâce au confinement de l'ensemble de la France, certaines régions puissent être épargnés. C'est possible qu'il y a que 350 cas à peu près dans le sud-ouest. C'est possible que si le confinement est respecté, ces régions-là seront épargnées. Donc ça veut dire que il faut minimum ce délai-là pour arriver à contrecarrer le chemin du virus. Et puis on voit que tous les pays autour de nous font pareil. L'Italie vient de prolonger, l'Autriche a dit pas de levée avant le 13 avril, et les États-Unis aussi s'y mettent. Donc il y a un moment, on peut pas faire mieux que les autres.
On peut pas distinguer nous évidemment espérer avoir de meilleurs résultats. Emmanuel Dutheil, on se parlait à l'instant et on se disait évidemment que les entreprises s'interrogent sur la question de la prime. Vous nous disiez que c'était trop tôt. Du côté des entreprises publiques, typiquement la Poste, la Poste, ça y est, on ferme demain, hein. C'est ça?
Oui, et j'ai retrouvé ma voix en plus, donc je peux rassurer Nathalie, rassurer mes parents qui doivent être aussi à l'écoute. Bon, passons plus sérieusement. Effectivement, là, on voit que
c'est important.
C'est
important dans ces moments-là.
Oui, dans ces temps, il faut se donner des nouvelles. Donc je vais bien, rassurez-vous, tout va bien. En plus, je suis confiné en Vendée, si vous voulez tout savoir, où il fait un temps extraordinaire et où le confinement sur les plages est à 100% respecté. Dans ma petite
Très
commune
bien.
De Notre-Dame-de-Mont, je peux vous dire que c'est à 100% respecté. Passons
vous
et là,
jumelles,
plus sérieusement.
Donc parfait.
Voilà. Et pour ce qui est de la Poste, effectivement, c'est quelque chose de très symbolique. C'est que la Poste a décidé de fermer demain. Attention, je rassure tous nos auditeurs, ils ne ferment que demain. Ça va reprendre lundi. L'idée, c'est de vraiment réorganiser et de regarder comment ça fonctionne. Et ils vont repartir. Mais ils ont besoin, eux aussi, ça montre bien à quel point toutes les entreprises ont besoin aujourd'hui de mettre à plat leur système et de voir comment il est possible de fonctionner. Donc demain, ne vous inquiétez pas. Si
de sécuriser
vous
ses salariés. Également.
De façon urgente. Voilà, de sécuriser les salariés, de voir qui peut travailler. Mais c'est une décision extrêmement symbolique. La Poste qui ferme, ça n'arrive bien évidemment jamais. Ils le font sur le jour le plus creux de la semaine. Ils le font aussi parce qu'il y a quand même foncièrement beaucoup moins d'activité en ce moment. Mais voilà, c'est un signe effectivement extrêmement important.
Michaël Darmon, je reviens vers vous. Michaël, on se parlait de la polémique des masques, à la fois sur le plan sanitaire avec Ève Roger et puis sur le plan politique avec vous-même. Évidemment, il y a une période d'incertitude là, dans laquelle on est de plein fouet tombé depuis 4 jours maintenant et qui va s'étendre jusqu'au calendrier politique, parce qu'il n'y a pas d'impasse, évidemment. Eux aussi, ils vont être concernés. Donc, on est dans le nébuleux. Sur ce plan-là.
Totalement. On est dans l'incertitude absolue. On marche vers l'inconnu, en fait, tout simplement. En ce qui concerne tous les secteurs, on l'a compris autour de vous avec Eve Emmanuel sur le plan de la situation sanitaire, sur le plan de l'économie, sur le plan de la politique, sur le plan de la vie publique. C'est la raison pour laquelle c'est très important aussi ce qui s'est passé ce matin avec ce Conseil de défense. Parce que c'était l'occasion de matérialiser, de scénographier le fait que c'est maintenant la cellule interministérielle de crise de la place Beauvau qui contrôle maintenant la gestion de la crise. Avant, jusqu'à présent, nous étions à la cellule de crise du ministère de la Santé. Mais maintenant, la situation est tellement importante, on sait que les pouvoirs publics maintenant craignent ce qu'ils appellent pudiquement les problèmes non sanitaires. En clair, tous les problèmes, les dérives, les problèmes les manifestations de violence, la délinquance qui va être générée par cette situation-là, que maintenant c'est la cellule qui gère les attentats, qui s'occupe maintenant de l'ensemble de cette crise. C'est la raison pour laquelle cette scène ce matin, qui évidemment a été montrée volontairement et très largement par l'exécutif avec Emmanuel Macron autour de cette cellule de crise, n'était pas du tout pour dire il faut respecter la distance de sécurité. Pas du tout. C'est parce qu'en fait, la gouvernance a changé. La gouvernance maintenant, elle est gérée par la cellule de crise interministérielle qui d'habitude gère les événements les plus graves en France.
Évidemment. Alors, je vais retourner vers Ève Roger parce que, dites-moi, Ève, confirmez-moi une chose et surtout à nos auditeurs parce que on a l'air de dire qu'on ne sait pas, mais c'est les auditeurs qu'on a besoin d'informer. On a désormais, on a entendu Christophe Castaner encore une fois, les contrôles renforcés. On a une nouvelle attestation de déplacement dérogatoire désormais avec de nouveaux motifs.
Eh bien, je vais vous dire la réponse, c'est que je n'en sais rien. Je ne sais pas du tout.
D'accord.
Si on a une nouvelle attestation. Tout ce que, la petite info que je peux vous donner, c'est comme l'APHP a fait le contrôle, a essayé d'évaluer le nombre de Parisiens qui étaient partis au moment du confinement. Et ils ont évalué à 17% le nombre de Parisiens qui avaient quitté Paris pour s'égayer dans les campagnes. Mmh. Et ça, grâce à la baisse de la consommation d'électricité avant l'annonce du confinement. Voilà, donc parce qu'ils voulaient évaluer le nombre de personnes qu'il faudrait rapatrier s'il fallait les hospitaliser, c'est vous dire. Bon, après, maintenant, de toute façon, on ne bouge pas, donc il n'y a pas de dérogation spécifique.
On rappelle que bouger, enfin quitter Paris pour une autre région ou l'inverse d'ailleurs, c'est autant de chances de contaminer ces autres.
Ce que vient de nous dire Boris Cyrulnik, c'était passionnant.
Exactement. Emmanuel Duteil, on parlait hier du sursaut de la Bourse de Paris, rebelote d'ailleurs aujourd'hui. Il y a une nouvelle action concertée des banques centrales d'ailleurs. Hein. Tout s'explique, c'est ce que vous m'expliquiez d'ailleurs hier parce que là-dessus, on n'y est pas toujours. Là, cette fois, cette nouvelle action concertée des banques centrales, qu'est-ce que ça veut dire ?
Oui, on pourrait presque faire un petit point bourse chaque soir grâce à vous, parce qu'effectivement la Bourse de Paris a encore gagné ce soir 5%, et si vous avez totalement raison, c'est le résultat de cette nouvelle action concertée des banques centrales. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que les banques centrales, les principales banques centrales autour de la planète, ont décidé à nouveau de rendre l'accès à l'argent plus facile, pour rendre ça assez simple. Ça sert à quoi ? Eh bien, ça sert à dire aux banques, vous avez de l'argent, vous pouvez prêter de l'argent aux entreprises, vous pouvez les aider à passer ce moment compliqué. Et ça, c'est capital, c'est indispensable pour que le secteur, le tissu économique tienne. Il faut que les banques puissent continuer à donner de l'argent. Et là aussi, c'est important de rassurer parce que je pense que tout ce qu'on en est, on entend beaucoup de choses anxiogènes, on se dit des choses dans nos propres entreprises qui peuvent faire peur. Au moment là où on se parle, grâce à ces injections massives d'argent, il n'y a pas de risque pour la suite. Et par ailleurs, les États aujourd'hui ont pris une décision très importante que me rappelait tout à l'heure Isabelle Horry, notre correspondante à Bruxelles pour Europe 1. C'est-à-dire ce qu'on appelle le fameux pacte de stabilité. Vous savez, quand on dit à longueur de temps, c'est l'Europe qui veut pas qu'on dépasse les 3% de déficit, ce qui est en plus totalement faux puisque ce sont les Européens eux-mêmes qui avaient décidé de s'instaurer cette règle. Eh bien là, ce fameux pacte de stabilité, il est suspendu. C'est un message extrêmement fort parce que ça dit, allez-y, mettez tous les moyens et on verra après. Il sera temps, une fois que cette crise sera passée, pour se dire, 3%, 4%, on se débrouillera après. Alors peut-être que ce sera très compliqué après, mais ça peut paraître technique et peut-être que nos éditeurs se disent, mais qu'est-ce que j'en ai à faire du pacte de stabilité alors que je suis en train de me demander comment je vais m'organiser tout le week-end avec ma famille. Mais c'est un geste important de soutien à l'économie.
Évidemment, et c'est crucial, on le sait. Dites-moi, Ève Roger, je me suis un petit peu renseignée en attendant.
Est-ce que je peux ? Oui, moi aussi.
Ah bah très bien. Alors on a trois autres motifs de déplacement. Est-ce que vous êtes à trois vous aussi ?
Alors moi j'en ai identifié deux, les déplacements brefs à proximité du domicile pour lier à l'activité physique et ce qui exclut toute activité collective, sportive, etc. Et puis la deuxième, c'est quand vous avez rendez-vous où vous êtes convoqué à un commissariat par la justice, etc. La gendarmerie, c'est ça que j'ai noté.
C'est ça, exactement.
Vous en avez un troisième?
Non,
mais
c'est ça. Non, c'était par la justice, mais effectivement, ça me faisait trois parce que j'avais dissocié police, gendarmerie et justice, mais vous êtes d'accord? On est d'accord, on y est. Donc, ce qui fait donc 8 motifs au lieu de 5 ou 7 motifs au lieu de 5, mais ces nouveaux motifs ne figurent a priori pas sur l'attestation papier, donc ne soyez pas inquiets, vous gardez votre attestation et de toute façon, vous sortez pas, donc vous en avez pas besoin. On se dit quelques mots ensemble, Michael Darmon, très rapidement, de ce deuxième tour des élections municipales, de plus en plus incertain ce deuxième tour,
ça va être rapide, effectivement, c'est incertain, parce que c'est le comité scientifique de mi-mai qui va donc décider.
Il y a du plomb dans l'aile, comme on dit.
Pour l'instant, ça a l'air, l'incertitude est évidemment maintenue, ce qui crée une tension politique, parce que du côté notamment de la droite, on l'a vu au Sénat, eh bien, il y a une envie de pouvoir déposer des listes tout de suite, et de montrer les alliances qui vont être passées, mais du côté de la République
République En Marche, on bloque parce qu'on considère que on va pas montrer exactement dès maintenant avec qui on fait alliance. Ça va poser la question de l'annulation du premier tour pour ceux qui sont en ballotage. Je ne parle pas de ceux qui sont élus au premier tour. Ça c'est réglé parce que sinon l'insincérité du scrutin peut devenir inconstitutionnel. En tout cas un motif donc d'annulation par le Conseil constitutionnel, parce que ça aura duré beaucoup trop longtemps, et donc on n'est pas à l'abri encore d'un nouveau rebondissement concernant ces élections, ce deuxième tour des élections municipales pour les quelques villes qui restent, puisque je vous rappelle quand même la majorité, hein, 30 000 communes ont élu leur maire au premier tour, lors du premier tour du 22 mars, et il reste évidemment à gérer des villes importantes.
Du 15 mars, excusez-moi,
mais maintenant on perd la notion du temps quand on est confiné.
Mais on vit,
le matin, les grandes voies, voilà, c'est les cadres. Mais tout simplement, il va falloir maintenant trouver aussi la manière de réorganiser de manière constitutionnelle et avec un scrutin sincère les deuxièmes tours qui restent à régler, d'autant plus que ce sont des villes importantes, quand même, Lyon, Marseille, Paris, par exemple, et d'autres lieux très importants politiquement.
Les grandes voies, on va conclure juste, vous savez que c'est le week-end là qui arrive. Hein, donc on ne va pas se retrouver nécessairement, sauf si vous insistez. Donc il va falloir. C'est vrai, on pourrait. En tout cas, l'information sera là avec Wendy Bouchard qui évidemment sera au 18-20 aux commandes. Bernard Porrette pour la matinale. Donc et Mathieu Charrier également aux commandes. Vous allez faire quoi? On va se dire très vite. Allez, on fait un petit tour de table, un tour de salon, parce qu'on en parlera à 19h30.
En fait, il faut casser la routine. Et donc, ce week-end, qu'est-ce qu'on fait le samedi soir? Eh ben, on sort, on voit des amis, ben, on va continuer, on va faire des apéros Facebook, on va faire des dîners, on va mettre une belle table, et on va s'habiller, on va se maquiller, puis on va danser ensemble à distance. Voilà.
Comme vous y allez. Donc, ça, c'est le programme d'Ève Roger. Emmanuel Dutheil.
Alors moi c'est beaucoup plus basique, je m'occupe de ma fille que j'ai pas beaucoup vue ces derniers jours et j'écoute dimanche matin Gérald Darmanin avec Mickaël Darmon.
Ça c'est bien, c'est à 10h évidemment,
voilà,
Mickaël Darmon.
Moi, aussi, moi pour casser la routine, je vais préparer demain l'émission de Grand Rendez-vous et dimanche j'irai la présenter avec Nicolas Barré et on a effectivement comme invité Gérald Darmanin qui sera lui à distance à Bercy.
Exactement. Merci beaucoup les grandes voix. Merci d'avoir joué.
Merci Nathalie. Et ben vous Nathalie, vous n'avez pas dit.
Bon week-end à vous.
Faites quoi?
Je me maquille pas en tout cas. Je peux vous dire que l'heure là-dessus. Alors, mais l'apéro très probablement. Allez, je vous embrasse les grandes voix de loin. Évidemment,
bon
soyez prudents et
bon
à lundi. À très vite. On est ensemble. Vous l'avez compris sur Europe 1. On vous apporte de l'information et du sourire. Et le journal d'Isabelle Mier, c'est à suivre.
Messieurs, s'il vous plaît, revenons au sujet. La fiscalité auto en 2020. Éclairez-nous. Quelle voiture choisir pour ne pas être taxé?
La solution, c'est l'Outlander hybride rechargeable de Mitsubishi. Pas de malus, éligible à la prime à la conversion, des économies sur la carte grise, le stationnement et même la TVS quasi nulle pour les pros.
Luc, un autre choix?
Pas mieux. SUV 4 roues motrices, électrique, mais sans contrainte, l'Outlander de Mitsubishi est abordable et garantie 5 ans. C'était l'hybride rechargeable le plus vendu en France en 2019. Mitsubishi, le choix est fait.
Source Jato Dynamics.
Jusqu'à 20h sur Europe 1, vous écoutez votre grand journal du soir avec Nathalie Lévy et le programme de la prochaine heure, Nathalie, avec vous. Alors, l'info, évidemment, Isabelle Mille dans un instant. L'interview politique 19h10, c'est Aurélie Herbemont qui reçoit ce soir le premier secrétaire du Parti Socialiste, Olivier Faure. 19h20, demain en France et puis dans le monde. Et 19h30, restez à l'écoute. Toute la rédaction est sur le pont pour vous donner des idées pour ce week-end. Vous l'avez compris déjà avec Ève Roger, il y a un instant, Emmanuel Dutheil et Mickaël Darmon. Et posez toutes vos questions au médecin Jimmy Mohamed au 3921 sur le hashtag Radio Ouverte. Les applaudissements aussi en soutien à tous les soignants de France. Soyez au rendez-vous un peu avant 20h. En tout cas, les conseils et tout le reste, c'est avec nous sur Europe 1.
Vous écoutez Europe 1, il est 19h.
Il n'est pas possible d'envisager de partir en week-end, ni de partir en vacances. Certains de nos concitoyens n'ont pas compris la gravité de la situation. Si besoin est, nous les verbaliserons.
Part pas en week-end. Le confinement, c'est sérieux, rappelle ce soir le préfet de police de Paris après un nouveau conseil de défense et alors que plusieurs communes ont décidé de durcir les règles face à l'incivilité de certains Français.
Sur Europe 1 également ce soir, le coup de gueule du patron de l'Ordre des médecins qui ne comprend pas que le personnel soignant ne puisse pas bénéficier des tests de dépistage systématiques.
On verra aussi que ce confinement tourne au casse-tête et parfois même au cauchemar dans les familles recomposées. On s'intéressera à ces Français bloqués au bout du monde. Pour certains, le retour en France sera plus compliqué que pour d'autres. Et puis, applaudissez, hein, vous le disiez Nathalie, et faites du bruit pour le personnel soignant. Ce soir, nous sommes invités non seulement à applaudir, mais aussi à donner de la voix en chanson pour rendre hommage à ces héros qui prennent soin de nous.
On va chanter ces premiers, Anissa en premier, n'est-ce pas?
Mais avec grand plaisir, vous allez voir qu'à 20h ça va être de la folie. En attendant, ce que je peux vous dire, c'est que le temps, lui, se dégrade sur la moitié nord demain, avec un petit peu plus d'averses, notamment sur le nord-est. Je vous donne tous les détails à la fin du journal.
Europe 1, écoutez le monde changer.
Nathalie Lévy, Isabelle Millet.
Pas de durcissement du confinement, mais les contrôles seront intensifiés afin que tous les Français respectent ces règles, a dit Christophe Castaner cet après-midi même à l'issue d'un nouveau conseil de défense.
Et oui, le ministre de l'Intérieur qui insiste encore une fois sur l'importance capitale de respecter ces consignes. Consignes qui par ailleurs vont être durcies par endroits, comme le confirme Didier Lallement, il est le préfet de police de Paris.
Il n'est pas possible d'envisager de partir en week-end, ni de partir en vacances. Certains de nos concitoyens n'ont pas compris la gravité de la situation. Nous leur rappelons, si besoin est, nous les verbaliserons. Mais je crois, et c'est cet appel que je veux lancer, c'est un véritable appel au civisme. Il faut que chacun se rende compte, et je le répète, que la situation est grave. De la discipline collective résultera le succès ou l'échec. Donc la plupart de nos concitoyens sont remarquables dans cette discipline. Un petit nombre ne le sont pas, encore une fois, par insouciance ou par irrespect. C'est le rôle de la police de rappeler que le collectif doit primer sur des comportements individuels qui ne sont pas acceptables dans cette situation.
On ne part pas en vacances, dit ce soir Didier Lallement, le préfet de police de Paris.
Et par ailleurs, le ministre de l'Intérieur a lui précisé cet après-midi que chaque commune ou région pouvait mettre en place des mesures ciblées localement. À Nice, typiquement, un couvre-feu devrait être décrété ce soir par la municipalité.
Nice, où un drone muni d'un haut-parleur a survolé ce matin le centre-ville et la promenade des Anglais, qui est désormais fermée aux promeneurs. Cet après-midi, ce même drone a survolé Cannes, muni d'un haut-parleur, rappelant donc les consignes. Paris aussi, de nouvelles restrictions, interdit par exemple de se promener désormais ce week-end sur les quais de Seine ou bien sur le Champ de Mars.
Mais dans l'ensemble, Isabelle, ces annonces déçoivent le corps médical qui lance de plus en plus des appels pressants pour un renforcement des mesures.
Oui, les internes en médecine ont même décidé de saisir le Conseil d'État en référé pour obliger le gouvernement à durcir encore ce confinement. Quant à Patrick Bouet, le président de l'Ordre national des médecins, il ne comprend pas que tous les personnels de santé ne puissent pas avoir systématiquement accès aux tests de dépistage.
Aujourd'hui, alors que l'on sait qu'il faut absolument que les professionnels de santé soient disponibles, nos collègues médecins, mais également les infirmiers, également les autres acteurs du système, aujourd'hui ne bénéficient pas d'un dépistage systématique. Et lorsqu'ils sont dans une situation où ils veulent être dépistés, ils ont des difficultés à le faire et c'est inadmissible parce que la sécurité de la population est en jeu. Un médecin ou un professionnel de santé contaminé peut devenir contaminant. Et j'ai le sentiment que l'on a un peu oublié que pour que les Français soient soignés, il leur faut des soignants qui ne soient pas des contaminants.
Le président de l'Ordre national des médecins, Patrick Bouet, joint pour Europe 1 par Ève Roger. On l'évoquait il y a un instant avec les grandes voix. C'est une annonce forte que vient de faire l'Union européenne. Une suspension inédite des règles de discipline budgétaire afin que les États membres puissent dépenser autant que nécessaire pour lutter contre les conséquences économiques du Covid-19. Et puis en ce vendredi, en temps normal, dans les familles recomposées, c'est généralement le jour où les enfants qui sont chez maman partent chez papa pour le week-end ou pour la semaine, ou bien inversement. Bien sûr.
Et sauf qu'avec le confinement, ce chassé-croisé devient parfois un vrai casse-tête, comme pu le constater pour Europe 1 Yasmina Katou.
L'ex-femme de Laurent a refusé de lui confier sa fille de 3 ans pendant ses jours de garde. C'est un délit, le papa a porté plainte, mais la police, en sous-effectif, ne peut rien faire pour lui.
Pendant un mois et demi, je ne vais pas voir ma fille. Je trouve ça dégueulasse. Elle le justifie tout simplement parce qu'elle considère qu'elle a un droit de mère qui est plus important que celui du droit de père et que seule la mère est en capacité de dire si la fille est mieux en sécurité chez le père ou chez la mère. Et je trouve que c'est aberrant qu'un parent utilise les mesures qui ont été prises par l'État français pour ne pas pas faire appliquer un jugement en tant que tel.
Mais heureusement, certains couples trouvent un terrain d'entente. Fabrice a demandé à son ex-femme de garder ses 3 enfants toute la durée du confinement.
Je préfère ne pas leur faire prendre le risque des transports et d'autre part d'arriver dans un espace qui est à mon contact et pas aussi simple que chez leur maman. Mes enfants me manquent depuis 10 jours, ils me manqueront encore pendant 15 jours, mais je pense que leur sécurité doit prévaloir sur le manque que je ressens et qu'ils ressentent aussi.
Pour pallier l'absence, Touria et son ex-mari ont instauré un droit de visite d'un nouveau genre pour leurs 2 filles.
Il vient les voir ici en bas de la maison. Il les appelle en vidéo tous les jours. Mais pour le déplacement, non, on préfère qu'elle reste à la maison en ce moment.
L'ex-mari de Touria préfère attendre, prendre son mal en patience pour pouvoir embrasser ses 2 filles sans retenue dans quelques semaines.
Très compliqué. En effet, reportage signé Yasmina Katou. Autre casse-tête, celui de ces Français, très nombreux, coincés à l'étranger et qui ne peuvent pas rentrer en France. On l'évoquait hier soir avec vous, Pauline Jacquot. Du nouveau ce soir, Pauline, un peu d'espoir. En tout cas, le ministère des Affaires étrangères prend les choses en main, même s'il reste des pays pour lesquels c'est très compliqué. Hein.
Oui, la République dominicaine notamment, je suis en contact avec un groupe de Français bloqués depuis plusieurs jours sur l'île et certains d'entre eux vont pouvoir rentrer dans les prochaines heures. 2 avions Air France décollent ce soir de Punta Cana. Christine a pu acheter son billet, elle espère enfin pouvoir rentrer à Paris.
C'est l'enfer parce qu'on n'a pas profité de nos vacances. L'ambassade de France nous dit « vous inquiétez pas, vous serez prévenus, vous inscrivez sur Ariane, vous serez prévenus du rapatriement, tout le monde sera rapatrié en fin de semaine ». Or, le temps passe, on n'a pas eu cette confirmation, donc on a pris les devants. À titre personnel, on paye 2 000 € pour un aller simple pour 2 personnes. Quoi.
D'autres n'ont pas pu réserver de place sur ces vols. Chacun essaye de contacter son agence de voyage de son côté, mais très souvent, il faut se débrouiller tout seul. Les Philippines, Madère, l'archipel portugais et les Canaries en Espagne font aussi partie de ces cas particuliers où la coopération est difficile, a dit le ministre Jean-Yves Le Drian. Les Canaries, où Frédéric est toujours en attente d'une réponse de l'ambassade.
Je ne comprends pas qu'au bout d'une semaine, on n'ait pas pu mettre en place ces rapatriements. Les Allemands, apparemment, hier, l'aéroport des Grands Canaries était plein d'Allemands, donc ça voulait apparemment signifier qu'il devait y avoir des rapatriements sur l'Allemagne. Punaise, comment ça se fait qu'en France, ça ne se passe pas, quoi, et que la France ne se passe pas pour les... Apparemment, ils l'organisent pour Tenerife, pour les autres îles, mais Grand Canaria, ben, rien.
Il y a urgence, me dit une Française aux Philippines, car les hôtels commencent à fermer et nous avons peur de bientôt ne plus pouvoir nous loger.
Merci Pauline Jacquot.
Et puis c'est notre bouffée d'oxygène hein, tous les soirs à 20h. On va le vivre encore ce soir en direct, je vous le promets, sur Europe 1. Je suis très motivée, hein, comme chaque soir, ces milliers de Français qui sortent à leurs fenêtres pour applaudir le personnel soignant. Des applaudissements encore plus nourris, c'est sûr, tout à l'heure.
Et oui, surtout qu'il y a une autre initiative apparemment en ce vendredi, Nathalie. Ça s'appelle la fête au balcon. Nicolas Feldman, les Français sont invités à danser. Et oui, à danser et aussi à faire de la musique, toujours en hommage à ce personnel soignant. Hein.
Ah oui, et juste après les applaudissements, il y aura donc de la musique ce soir aux fenêtres et aux balcons du pays. L'idée, eh bien, c'est aussi de se rappeler qu'on est vendredi soir et qu'un vendredi soir, même confiné, ça se fête. Je viens de contacter un musicien qui sera de la partie. Il s'appelle Thomas. Il est dans le 5e arrondissement de Paris. Et chez lui, tout est prêt avec un balcon transformé en petite scène de concert.
Là, on a tout déménagé dans le salon. On a tout mis au bord de la fenêtre. Et on a tourné les enceintes vers la rue, quoi. En fait, j'étais en train de faire ma playlist et je pense que comme premier morceau, je vais peut-être mettre un Stevie Wonder. Je vais essayer de jouer de la musique joyeuse, je pense, c'est pour essayer de remonter le moral.
Alors Stevie Wonder, notamment au programme, mais il devrait y en avoir aussi pour tous les goûts partout ailleurs dans le pays. À l'origine de cette fête au balcon, Mazen et Benjamin, 2 amis dans l'événementiel.
On a décidé de lancer cet événement en hommage à tous les personnels de santé qui luttent tous les jours pour pouvoir sauver des vies. Et nous, du fait qu'on est confinés un peu chez nous, la seule manière qu'on avait de sauver la France, c'est de rester chez nous et éventuellement d'apporter un peu de bonheur à nos voisins en musique.
Du bonheur en musique, mais il y a quand même quelques règles. Cette fête, c'est uniquement le vendredi soir et pas après 21h. Pour savoir qui jouera près de chez vous, vous pouvez retrouver une carte interactive sur Facebook. Ils sont déjà près de 500 musiciens à avoir répondu présent dans toute la France.
Super initiative. Wow. Merci Nicolas Feldman. Moi, je propose Queen, We Are The Champions.
Ouais, moi j'étais
ou Jump de Van Halen, je sais pas.
Oh là là, c'est bien, moi j'étais sur Justin Timberlake, je sais
oh
pas,
là
bon,
là
écoutez, il faut qu'on trouve un truc.
Il va y avoir une guerre ce soir. Ouais. Moi, je propose I Will Survive de Gloria Gaynor.
Mais bien sûr.
J'adore le message,
évidemment. Exactement, vous avez tout bon, Anissa. Merci Isabelle Millet, on vous retrouve à 19h30, hein. Filez pas encore sur le balcon. Et Anissa, pareil, vous nous donnez d'abord le temps de demain. Bon, le temps qui se dégrade, ça le fait pas, là.
Oui, alors ça se dégrade surtout au nord, Nathalie, demain. De la Bretagne à l'Alsace, en passant par la Bourgogne, la Bourgogne, les Hauts-de-France, je m'en perds, l'Île-de-France, le centre Val-de-Loire, la Normandie, les Pays de la Loire. Là, la journée va commencer dans toutes ces régions sous des nuages très épais, avec d'ailleurs sur le quart nord-est pas mal d'averses. Et puis dans l'après-midi, le ciel va rester couvert au nord de la Loire et les averses vont gagner la moitié sud, mais je vous rassure, ces averses ne devraient toucher que les reliefs, donc les Alpes, le massif central, une partie du Jura. Et puis sur la Nouvelle-Aquitaine, c'est là que nous aurons la plus belle des journées demain. Nouvelle-Aquitaine et Occitanie, c'est grand et beau soleil pour vous, sans aucun nuage. Le vent de nord-nord-est souffle sur toute la moitié nord du pays, c'est-à-dire que nous aurons du vent aussi, même à l'intérieur des terres, hein, sur la Bourgogne, les Ardennes, sur la région parisienne, sur le centre Val-de-Loire, ça va souffler à 50 km/h. Et puis, toujours le vent d'automne dans le sud. Les températures, elles sont en baisse. On va le ressentir demain quand vous allez ouvrir les fenêtres. 2 degrés à Manosque, 3 à Lille, 5 à Grenoble et Clermont-Ferrand, 6 pour Paris. Et puis dans l'après-midi, 7 à 11 degrés au nord et 12 à 20 partout ailleurs.
Europe 1.
Et votre grand journal se poursuit sur Europe 1 avec dans un instant Nathalie Lévy.
Avec dans un instant l'interview politique à distance, mais l'interview politique assurée par vous, Aurélie Herbemont. Bonsoir.
Bonsoir Nathalie. Et ce soir, je vais recevoir à distance effectivement Olivier Faure, premier secrétaire du Parti Socialiste. Face à l'ampleur de la crise du coronavirus, l'Union européenne prend une décision inédite. Elle suspend les règles de discipline budgétaire. On en parle avec lui.
On vous retrouve Aurélie Herbemont avec Olivier Faure sur Europe 1 3921, hashtag radio ouverte. À tout de suite.
Votre grand journal du soir sur Europe 1, c'est avec Nathalie Lévy et c'est l'heure, Nathalie, de l'interview politique.
Avec votre invité ce soir à distance, Aurélie Herbemont, le premier secrétaire du Parti Socialiste, Olivier Faure.
Bonsoir Olivier Faure.
Bonsoir.
L'Union européenne annonce aujourd'hui la suspension inédite des règles de discipline budgétaire. Ça va permettre aux États de dépenser autant que nécessaire pour faire face à la crise. Comment vous réagissez à cette annonce ?
Europe 1.
Alors, petit souci technique de toute évidence pour joindre Olivier Faure. Ah, Olivier Faure, on vous a retrouvé. Voilà, les joies du direct à distance. Olivier Faure, voilà. Bonsoir à vous, bienvenue. Donc, je vous laisse avec Aurélie Herbemont.
Olivier Faure, l'Union européenne annonce aujourd'hui la suspension inédite des règles de discipline budgétaire, ce qui va permettre aux États de dépenser autant que de besoin pour faire face à la crise. Comment vous réagissez à cette annonce de Bruxelles ?
Mais très positivement, voilà plusieurs semaines que nous avons formulé cette proposition et cherché à sortir l'Europe par le, enfin, qu'elle montre son utilité dans un moment de crise qui évidemment touche l'intégralité de nos pays européens. Et l'évidence, c'est que quand l'essentiel est en cause, la vie, à travers une épidémie dont nous ne connaissons pas encore toutes les conséquences, toutes ces règles comptables paraissent totalement inadaptée et, pour tout dire, folle. Ce monde doit retrouver une forme de sérieux. Et le sérieux, c'est de privilégier toujours l'humain, la vie, avant de privilégier le reste. C'est une évidence. Donc, je me félicite de cette décision qui, pour moi, était une évidence et qu'il ne pouvait pas en être autrement en réalité.
C'est le quoi qu'il en coûte d'Emmanuel Macron à l'échelle européenne, là ?
C'est le quoi qu'il en coûte que nous devons effectivement intégrer et que nous aurions dû intégrer depuis bien plus longtemps, parce qu'en réalité, ce dont nous souffrons aujourd'hui, c'est aussi l'impréparation à cette crise de l'ensemble des pays européens, parce que depuis trop longtemps, on demande des...
Alors, Olivier Faure, en France, les mesures de confinement ne vont pas être durcies, à ce stade en tout cas, mais leur mise en œuvre va être plus stricte, c'est ce qu'a annoncé le ministre de l'Intérieur. Est-ce suffisant face à ce qui ressemble à de l'indiscipline de la part de certains Français ?
Écoutez, moi je suis inquiet quand j'entends, enfin je suis chez moi, mais j'ai évidemment des contacts toute la journée avec des gens dans toute la France, et notamment des médecins, et qui me disent eux-mêmes être très inquiets par la situation, et qui voient encore trop de gens qui considèrent que
la possibilité qui leur a été laissée de faire du jogging, c'est l'occasion d'aller discuter avec les uns et les autres dans la rue. Et donc, il faut effectivement que chacun comprenne enfin ce qui se passe. Ce sont près de 627 morts précisément ce soir en Italie, avec un rythme qui s'amplifie. C'est une perspective que nous devons avoir à l'esprit, que ça peut être des dizaines de milliers de morts. Et donc, je crois qu'il est temps que chacun le comprenne. Et si tout le monde ne le comprend pas, alors effectivement, il faut être plus direct. Et moi, je souhaite qu'en ces moments-là, on applique des méthodes qui soient facilement compréhensibles par tous. Et donc, on durcisse le ton. Je vois qu'à certains endroits, on applique des couvre-feux, que des
individus sont... À Nice, par exemple, c'est ce que veut mettre en place... Le maire.
Mais oui, le maire Christian Estrosi. Je vois qu'à Paris, on est en train de fermer des lieux qui sont habituellement ouverts au public, et je pense que ce sont des solutions vers lesquelles on devra se tourner si chacun ne prend pas, pas conscience de ce qu'il fait, de ce qu'il risque d'abord pour lui-même, mais ensuite pour les autres. Et on l'a déjà tellement répété, j'ai tellement l'impression qu'on est dans une forme de répétition permanente, mais il faut adopter les gestes barrières, il faut se tenir à distance les uns des autres, il faut éviter de sortir, il faut appliquer avec une rigueur absolue ces mesures-là. Si nous ne le faisons pas, si nous continuons à laisser le virus se déplacer, il faut qu'on comprenne tous que ce virus a une viralité qui est inégalée, qui est nouvelle, et à l'évidence, on prend des risques, voilà, et on en fait courir aux autres, et donc ça suppose que chacun soit extrêmement ferme dans sa discipline. Et si on ne l'est pas, alors il faudra que le gouvernement passe au stade supérieur, et moi je souhaite que nous ne prenions aucun risque par rapport aux dangers qui menacent la collectivité.
En attendant un éventuel stade supérieur, si les consignes ne sont toujours pas respectées, vous êtes premier secrétaire du PS. Qu'est-ce que vous dites aux maires socialistes? Renforcer les interdictions sur le terrain concernant les marchés, les parcs, etc.
C'est ce qu'ils regardent eux-mêmes, et je veux les saluer parce que vous savez qu'aujourd'hui, la plupart des mesures qui sont mises en place reposent d'abord sur les soignants qui sont en première ligne, mais ensuite sur les élus locaux qui sont ceux qui s'occupent de la garde des enfants, des soignants précisément, qui s'occupent du portage à domicile des repas pour les anciens, qui s'appliquent à faire veiller aux consignes qui sont posées par le gouvernement. Et jour après jour, je les vois qui sont en fait à pied d'œuvre. Et donc, ils sont particulièrement à saluer parce qu'on glose souvent sur ce monde politique qui n'est pas toujours à la hauteur, et c'est vrai. Mais il y a aussi des élus locaux aujourd'hui qui sont vraiment 24-24 et qui sont totalement engagés. Nous avons, nous, mis en place une forme de plateforme des bonnes pratiques pour que chacun puisse s'inspirer de ce qui se fait chez le voisin et que nous puissions y compris être une plateforme qui puisse poser les bonnes questions au gouvernement et l'amener à faire évoluer sa propre doctrine en fonction de ce que nous relevons sur le terrain.
Alors, vous parlez de doctrine, il y en a une qui fait beaucoup parler ces derniers jours, c'est celle qui concerne les masques. Le pays n'était pas préparé, c'est ce qu'a reconnu le ministre de la Santé. Est-ce que les gouvernements successifs ont fait tout ce qu'il fallait au sujet des masques? On voit que depuis 2010, les stocks d'État sont en baisse.
Oui, parce que les masques se périment et que la doctrine a changé sur ce point en 2011. Mais il ne s'agit pas d'aller regarder à 10 ans ou à 5 ans ou à 6 ans. La question, c'est il y a quelques mois, quand tout le monde sait en fait quelle était la doctrine. La doctrine, c'était de dire autrefois on fait des stocks, puis après c'était de plus faire de stocks, mais de s'en remettre à des producteurs qui sont notamment dans la région de Wuhan, qui est celle qui était la première infectée. Dès lors qu'on a vu que cette région-là ne pourrait plus produire les masques, quelles ont été les mesures prises pour pallier cette difficulté et comment est-ce que le gouvernement a pris la mesure ou pas de cette
menace? Il n'a pas été assez réactif, le gouvernement.
Mais écoutez, l'heure n'est pas venue de faire le bilan de ce gouvernement. Pour l'instant, moi je veux plutôt être dans l'accompagnement, dans l'aide, mais viendra l'heure du bilan aussi, et où on se posera les bonnes questions, parce que les bonnes questions, c'est pas de chercher à toujours rejeter la faute sur celui qui vient avant. Ce gouvernement-là, il est là depuis 3 ans. La doctrine n'a pas changé, on peut comprendre qu'elle n'ait pas changé. En revanche, à partir du moment où on avait connaissance du fait que les stocks de masques ne pourraient pas venir de Chine, qu'avons-nous pratiqué, quelles ont été les précautions que nous avons prises, quelles sont les entreprises que nous avons réquisitionnées pour pallier l'absence des Chinois. Ce sont ces questions-là qu'on se posera en temps utile. Pour le moment, moi je souhaite que le gouvernement mette tout en place pour réquisitionner toutes les industries, y compris, bon, c'est pas le métier, mais qui peuvent en quelques jours se convertir et faire en sorte de produire, y compris des masques textiles, y compris de nouveaux respirateurs, y compris produire des tests, parce que nous sommes pour l'instant dans une situation où nous sommes en deçà de ce qu'il faudrait. J'étais tout à l'heure en lien avec un médecin, socialiste en l'occurrence, qui me disait qu'il n'avait plus de tests, qu'il ne savait pas comment, enfin, que pour l'instant, eh bien, ils sont à tous leurs patients, ils disent la même chose, ils disent vous avez des symptômes qui peuvent ressembler, donc confinez-vous, mais c'est très compliqué pour eux parce qu'ils ne sont même pas eux-mêmes équipés.
Ils ne sont même pas équipés. C'était ce que vous disiez ce soir. Olivier Faure, merci beaucoup d'avoir été mon invité. Mais on a découvert qu'à distance, c'était un petit peu laborieux. Mais c'est la règle,
c'est
en ce moment.
Dur. Voilà. Ouais.
Voilà. Mais vous y êtes arrivés. Votre grand journal du soir se poursuit, Nathalie Lévy, avec demain, en France, dans le monde, partout. Europe 1 prend un temps d'avance et s'intéresse à ce qui va se passer demain.
Eh oui, parce que précisément, dans de nombreuses villes déjà depuis quelques jours, c'est compliqué, c'est très compliqué pour les personnes âgées, pour nos aînés. Alors, il y a des villes où des cellules ont été réactivées pour éviter de les isoler un peu plus encore, ces personnes. Bonsoir Lionel Gougelot.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous.
Eh oui, ces personnes âgées, nos aînés subissent aussi le confinement pour cause d'épidémie, ne les oublions pas. Alors, dans votre région à Amiens, une cellule restera vigilante tout le week-end, non ?
Oui, effectivement. Et je vous propose d'écouter concrètement comment les agents du Centre communal d'action sociale d'Amiens maintiennent le contact avec les personnes âgées, isolées ou fragiles.
Allô, bonjour monsieur, c'est l'écoute senior du CCAS. Je vous appelle pour prendre de vos nouvelles.
Oui, ça va à peu près comme un vieux.
Votre santé, ça va ?
Non, j'ai fait un petit tour au jardin.
D'accord. Bon, bah, tout va bien alors. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous n'hésitez pas à nous appeler.
D'accord.
Alors voilà, hein, vous l'avez compris, il s'agit en fait du même dispositif qui est mis en place en période de canicule pour veiller à la santé des personnes les plus vulnérables. 2500 personnes sont répertoriées par le CCAS d'Amiens. L'objectif, eh bien, c'est tout simplement de maintenir le lien. Catherine Girard dirige le CCAS d'Amiens.
On demande systématiquement s'ils ont la possibilité de faire leurs courses par eux-mêmes, sinon on leur propose le portage des repas. Et puis on veille à ce qu'ils aient des proches et de la famille. Sinon, on met en place systématiquement un système de communication téléphonique régulier pour qu'ils ne se sentent pas isolés.
C'est formidable ce qui est fait là, un dispositif essentiel de prévention donc qu'on a observé. Des situations justement de détresse à Amiens-Lyonnais ?
Alors pas vraiment pour l'instant, mais vous imaginez bien que la maire d'Amiens, Brigitte Fourré, à qui j'ai parlé ce matin, ne cache pas que ça constitue pour elle une vraie préoccupation. D'ailleurs, ce dispositif doit être élargi pas seulement aux personnes âgées, mais aussi aux personnes fragiles socialement, disons, ou handicapées, qui sont appelées à s'inscrire sur le registre par un numéro vert qui a été largement diffusé dans la ville.
Merci beaucoup Lionel Gougelot, correspondant Europe 1 dans les Hauts-de-France. Cette initiative qui devrait être tellement évidente partout, dans toutes les régions. J'espère que ça fait des petits ce soir. Demain dans le monde avec Didier François. Bonsoir Didier.
Bonsoir Nathalie.
Didier, on continue de scruter l'évolution de la pandémie, les différentes mesures qui sont prises chez nos voisins pour y faire face, ce qui nous mène au Japon précisément, où la flamme olympique est arrivée aujourd'hui sur l'archipel. Mais franchement, on va pas se mentir, le cœur n'y est pas.
Non, pas vraiment, effectivement. Ce qui devait être un accueil en grande pompe du symbole des Jeux Olympiques, c'est finalement limité à une réception en catimini sur le tarmac déserté d'une base militaire dans le nord-est du pays, la région d'Higashagi-Matsushima, qui est un peu la zone maudite du Japon, submergée par le tsunami le 11 mars 2011, puis ravagée par la destruction de la centrale de Fukushima. Eh bien, la voici désormais en quarantaine pour cause de coronavirus. Et donc, les cérémonies qui avaient été prévues pour l'arrivée de la flamme ont été réduites au strict minimum. Les enfants des écoles sont restés chez eux et la garde d'honneur, qui avait été prévue assez étoffée, a finalement été ramenée à deux anciens multimédaillés olympiques, une lutteuse et un judoka avec trois médailles d'or, chacun à leur actif, donc de véritables combattants. Pour le reste, particulièrement le traditionnel relais à travers le pays qui doit amener la flamme jusqu'au stade où devraient être ouverts les Jeux le 24 juillet à Tokyo, eh bien tout a été drastiquement revu à la baisse. Plus d'attroupements autour autorisés sur le trajet et des festivités limitées à la portion congrue des enceintes sportives interdites au public. Pour le directeur de Tokyo 2020, c'est un véritable crève-cœur.
Ouais, sauf que c'est essentiel, hein, c'est le bon sens qui s'impose. Alors les Jeux, néanmoins, ils auront lieu ?
Ben en fait, à ce stade, personne n'en sait rien. Les organisateurs estiment qu'il est prématuré pour parler de report. Il reste encore presque 4 mois avant la cérémonie d'ouverture et on peut effectivement espérer que d'ici là, la pandémie sera contenue. Le comité olympique, le CIO, reste droit dans ses crampons, tant il est vrai que les enjeux économiques sont gigantesques. Mais vouloir maintenir à tout prix les Jeux dès cet été pose tout de même un réel problème à des dizaines d'athlètes dont les conditions d'entraînement sont très affectées par les mesures de lutte contre le virus.
Ouais, forcément, mais il faut rester planqué, rester chez vous. Merci partout dans le monde. Merci beaucoup Didier, François.
Et votre grand journal du soir se poursuit, Nathalie Lévy, avec dans un instant.
Eh bien, à 20h, une règle. Ouvrez vos fenêtres, on va vivre ensemble ces applaudissements partout en France depuis 3 jours maintenant, en soutien au personnel soignant, mais également aux caissiers, aux caissières, et puis bien sûr tous ces gens qui travaillent, les pharmaciens bien entendu. On va monter le son aussi parce que maintenant c'est comme ça aussi que ça se passe pour les soutenir. D'ici 20h, bah, on vous donne plein d'idées sympas pour ce premier week-end de confinement. Cette vie-là, comme ça, ça s'apprend. Alors tous les conseils, mais d'abord c'est avec Isabelle Millet qu'on vous propose un rappel des titres.
Il est 19h30 sur Europe 1.
Et un nouveau terrible record en Italie. Le pays a enregistré 627 morts supplémentaires en un jour. C'est le plus lourd bilan depuis le début de l'épidémie. Et près de 6000 nouveaux cas détectés. Là encore un chiffre jamais atteint jusqu'à présent. En France, l'épidémie se répand rapidement dans notre pays et elle s'aggrave, dit ce soir le directeur général de la Santé. Alors que le ministre de l'Intérieur réaffirme la fermeté du gouvernement, pas de serrage de vis, mais une application plus stricte des consignes données aux policiers et aux gendarmes chargés de faire respecter le confinement. Alors qu'à Nice, la municipalité a fait appel à un drone aujourd'hui pour veiller justement à ce que les habitants fassent preuve de civisme. Nice qui devrait instaurer à partir de ce soir le couvre-feu. Par ailleurs, les contrôles seront renforcés dans les gares. Partir en week-end ne fait pas partie des cas dérogatoires dans les gares mais aussi dans les aéroports. Ça n'est pas une raison valable de se déplacer. Et puis ce soir, le chef de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, prévient les jeunes qu'ils ne sont pas invincibles et il les appelle surtout à limiter leur vie sociale pour préserver les plus fragiles.
Merci beaucoup Isabelle. Préservez-vous vous aussi, restez chez vous. On se retrouve quand même lundi, ou pas d'ailleurs,
à 18h
pour de nouvelles infos. Très bon week-end confiné et Anissa va nous donner la couleur du ciel de ce week-end.
Eh bien, il sera gris sur la moitié nord, Nathalie, et beaucoup plus bleu et dégagé sur la moitié sud. En fait, sur le quart nord-est, demain matin, c'est-à-dire la Bourgogne, l'Alsace, la Franche-Comté, sur vraiment le grand est du pays, nous aurons des averses dès le début de la journée. Ces averses, elles vont s'estomper au fil des heures et elles vont se décaler vers le sud pour toucher les reliefs. Alors, il ne va pleuvoir qu'en altitude demain sur le massif central et les Alpes, par exemple. Au sud, c'est bien plus agréable. Demain, au sud de la Loire, vous aurez une journée ensoleillée. Et en fait, c'est sur la Nouvelle-Aquitaine et l'Occitanie, demain, que la journée sera la plus belle, avec un soleil qui va briller sans aucun nuage. Les températures, elles baissent, avec des gelées matinales, même demain matin, sur les vallées alpines et les Pyrénées. En moyenne, nous aurons 4 à 8 degrés, jusqu'à 10 au bord de la Méditerranée. Et puis dans l'après-midi, ça baisse assez franchement, avec seulement 8 à Nancy, 11 à Paris et 21 degrés pour Cahors.
Europe 1.
Et votre grand journal du soir se poursuit, Nathalie Lévy, avec ce soir, en mode week-end, beaucoup de bonnes idées. Toute l'équipe d'Europe 1 va vous donner ce soir de quoi vous occuper de façon culturelle, des activités aussi pour vous et vos enfants pour passer le premier week-end confiné de manière agréable. Vous pouvez bien sûr réagir au 39-21. Tous les bénéfices sont reversés à l'Institut Pasteur ou sur Twitter avec le hashtag Radio Ouverte Nathalie.
Et on va commencer avec notre invité Benjamin Lubzinski. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Vous étiez venu nous voir en studio, ça c'était avant. Vous êtes psychothérapeute et hypnothérapeute, auteur du livre Bien dormir, ça s'apprend aux éditions du Rocher, animateur d'une chaîne YouTube pour des conseils psycho et bien-être du quotidien. Alors on va être très concret, très positif ce soir avec vous, mais surtout très concret Benjamin Lubzinski. Qu'est-ce qu'on fait ce week-end pour ne pas se taper la tête contre les murs alors qu'on sera enfermé évidemment ?
Eh bien déjà, on va essayer de préserver son sommeil, de bien dormir 8 heures par nuit. Et on va avoir un vrai programme pour s'occuper toute la journée. C'est très important, moi je trouve, de garder des rythmes. Donc le week-end, de faire des choses un peu plus sympathiques qu'en semaine. Et en semaine, de d'essayer de travailler si on le peut, d'avoir des projets. Mais surtout, la première chose à faire, c'est vraiment s'occuper et préserver son sommeil. C'est très important, c'est ce qui permet de garder le calme. Bon
sauf que le sommeil, pardonnez-moi Benjamin Lubzinski, le sommeil évidemment c'est très important, mais on dort moins bien quand on n'a pas pris l'air, quand on n'a pas fait d'activité extérieure, n'est-ce pas?
Ah ben on est bien d'accord, on est bien d'accord. C'est pour ça qu'il faut essayer d'avoir un minimum d'activité physique. Hein. C'est même si on est dans un studio, il faut essayer de faire une petite demi-heure de marche. Ça peut sembler ridicule de tourner autour du canapé, mais c'est la seule manière ensuite de bien s'endormir le soir. Et puis on peut travailler sur de la relaxation par exemple. On peut utiliser de l'hypnose, la méditation. C'est peut-être ça, on pourrait transformer un temps contraint en un temps utile en utilisant des outils pour travailler sur son calme et faire de quelque chose d'utile de cette période qui est vraiment difficile pour tout le monde. Donc on est d'accord, c'est pas facile, mais il faut le préserver.
Bon, la tension elle monte, souvent on va se réfugier vers le frigo aussi pour compenser, hein, j'allais dire, et pour calmer ses nerfs. Comment on fait aussi pour éviter ça, pour éviter de se précipiter, même si bien sûr le sommeil normalement devrait aider à pas se précipiter vers le frigidaire, mais quand on trouve pas le sommeil, qu'on est quand même dans l'ennui clairement et qu'il y a des enfants à la maison à gérer, qu'est-ce qu'on fait?
Bah, on essaie d'avoir des temps de calme. Je crois que si on est les uns sur les autres, c'est bien d'essayer de se mettre de temps en temps dans une pièce à part, d'écouter de la musique, de lire, d'avoir un moment pour soi, parce que c'est vrai que sinon, on va avoir tendance à vouloir compenser. Et puis, bah, on sait ce que c'est. Hein. La bouffe, les clopes, c'est ce qu'il y a de plus facile comme drogue, c'est ce qu'il y a de plus accessible. Les cigarettes, bah, on va pas sortir pour aller en chercher, on va éviter. Donc, il reste que la nourriture. Donc, très clairement, on est aussi dans une problématique où le fait de s'occuper est très bon pour soi. Et puis, peut-être que c'est l'occasion justement de se dire, ça fait des années que je veux faire attention à mon poids, ça fait des années que je veux me remettre au sport. Bon, bah là, on n'a que ça à faire. Mmh. D'une manière générale, c'est bien de se poser cette question. D'habitude, je me dis, mais voilà, j'ai pas de temps pour faire ceci, j'ai pas de temps pour faire cela. Là, il n'y a plus d'excuses, on a le temps. Eh bien, alors, il faut le prévoir. Allez. Et le...
Voilà, c'est ça. Merci beaucoup, Benjamin Lubzinski. psychothérapeute avec votre livre Bien dormir, ça s'apprend au rocher, les éditions. Donc, on se dit qu'on range, on trie, on sort tout, on fait le grand ménage de printemps, finalement, cette saison. Et surtout, on s'occupe. Vous l'avez compris, vous, chez vous qui nous écoutez, on s'occupe, on reste chez soi. Bonsoir, Théophile Costa. On se retrouve à distance. Je suis contente de vous voir, ouais. Presque.
Bonsoir, Nathalie. Moi aussi.
Moi, j'ai bien envie de voir mes amis ce week-end. Vous aussi. Alors, on fait comment?
Alors, bah voilà, c'est vrai que pour la première fois, les Français vont faire l'expérience du week-end confiné. Hein. Impossible de se rassembler en famille, ni de voir ses amis, mais pas de panique. Heureusement, il y a tout ce qu'il faut comme super appli pour nous faire passer un week-end presque comme si de rien n'était. On commence avec les classiques, les applis qu'on connaît tous, hein, que vous connaissez bien sûr, WhatsApp et Messenger, qui appartiennent à Facebook. Vous savez, très utiles bien sûr pour s'envoyer des messages, mais qui permettent, je ne sais pas si vous le saviez, de passer aussi des appels vidéo en direct avec le son et l'image. Vous pouvez être jusqu'à 4 participants en même temps sur WhatsApp et jusqu'à 6 participants sur Messenger. Et c'est très pratique parce que ce sont des applications très répandues. Beaucoup l'ont déjà sur leur smartphone. Donc, assez facile de se connecter avec ses proches. Et puis, il y en a pour qui ça ne suffit pas. Si vous avez une très grande famille ou beaucoup d'amis et que vous voulez tous vous réunir en même temps ce week-end, rendez-vous sur Skype, évidemment incontournable. 17 ans d'existence, très pratique notamment pour échanger avec nos grands-parents. Vous savez qu'ils n'ont pas l'habitude de se servir d'un smartphone. Bah oui, parce que Skype, ça marche aussi sur un ordinateur et vous permet de passer des appels jusqu'à 50 participants. Bon, ça risque d'être un peu cacophonique, mais pourquoi pas, ça peut être une expérience.
Ah oui, c'est sûr. Alors là, je ne sais pas ce qu'il en restera. Il y a quand même cette nouvelle appli dont on entend beaucoup parler en ce moment. C'est même arrivé jusqu'à moi, c'est dire. Ça s'appelle House Party, Théo, c'est-à-dire.
House Party, ouais. Alors celle-là, je dois dire, c'est mon coup de cœur. Super pour un apéro ce soir entre copains. C'est un réseau social, en fait, sur lequel vous pouvez, là aussi, passer des appels vidéo en direct depuis votre smartphone. Ça marche jusqu'à 8 participants. Et ce qui est très pratique avec House Party, c'est que dès que vous avez un ami connecté, l'application vous envoie une petite notification qui vous propose de lui passer un coup de fil, tout simplement. Et mieux, si plusieurs de vos copains sont déjà, eux, en discussion ensemble, vous pouvez également rejoindre le groupe, comme ça, à l'improviste. Et le top, ça j'adore, c'est que vous pouvez aussi jouer ensemble, tous ensemble à distance, des petits jeux proposés comme ça par l'application, des quiz, un Pictionary ou alors le jeu du post-it collé sur le front, vous savez, où vous pouvez deviner voilà, le personnage que vous êtes. Bref, vous avez compris de quoi bien animer vos soirées de confinement en famille ou entre amis dès ce soir. Alors voilà, évidemment, toutes ces applications sont gratuites, disponibles sur Apple et Android. Une seule règle, mettre tout le monde d'accord pour télécharger la même application. Sinon, ça ne marche pas. Voilà. Je vous souhaite un très bon week-end confiné à tous, en tout cas. Voilà. Moi, personnellement, bon, attendez, en tout cas, ce soir, ça se passera sur House Party.
Alors, vous, c'est House Party, et moi, qui suis à peine plus âgée que vous, allez, 2-3 ans, comme ça, je fais quoi? Je fais House Party ou WhatsApp?
Bah, House Party, attendez.
Quand même? Ah bon, je vais y arriver?
Un coup de jeune, ça se fait, bah, bien sûr. Bon. Ouais, et puis WhatsApp, si vous préférez rester classique, et on commence doucement avec WhatsApp, et demain, on se met à House Party, si vous voulez.
Bon, ça marche. Comme ça, vous moquez, hein, comme vous y allez. Bon, merci beaucoup, Théophile Cossard. On a compris où vous pouvez vous trouver. On va se retrouver, nous, dans un instant, sur Europe 1, 3921. Et puis, Radio Ouverte, c'est le hashtag, bien sûr, sur Twitter. À tout de suite avec d'autres conseils. C'est promis, jusqu'à 20h et de la musique et du son dans la foulée.
Vous écoutez votre grand journal du soir sur Europe 1 jusqu'à 20h. Nous sommes vendredi et même confinés, on passe en mode week-end. Nathalie Lévy avec toutes les équipes d'Europe 1 qui se sont retrouvées pour vous dégoter les meilleures idées pour passer le meilleur week-end, premier week-end confiné.
Et oui, et puis évidemment des questions santé aussi avec le docteur Jimmy Mohamed qui nous a rejoint, le docteur d'Europe 1. Bonsoir docteur, merci d'être au rendez-vous. Allez, deux questions rapides docteur, et puis on vous libère parce que vous êtes là toute la journée depuis l'aube avec nous. On m'a beaucoup posé cette question, alors je vous la transmets. Un foulard en guise de masque si on veut prendre l'air 5 minutes pour promener son chien, utile ou...
Non, ça sert pas à grand chose. Le virus ne survit pas a priori dans l'air libre, et donc si on respecte les distances de sécurité, le foulard ne sert strictement à rien et le masque non plus. Et en plus, cette mesure peut être plutôt inefficace. Les virus, quels qu'ils soient, peuvent passer à travers le foulard. Donc cette mesure, elle est un peu juste anxiolytique, mais c'est ni recommandé ni efficace. Donc non, le foulard ne sert strictement à rien.
D'accord. Vous avez répondu, j'allais dire, à la question, le virus peut-il circuler dans l'air? Vous confirmez que là-dessus, on est quand même... On peut rester à peu près serein.
Oui, la seule chose, c'est qu'on sait que a priori, quand l'air est nébulisé, notamment chez les dentistes, vous savez, avec leurs fraiseuses, ils ont des appareils où ils mettent des particules qui vont être en suspension. Lorsque vous faites des aérosols, si vous allez aux urgences et que vous devez nébuliser pour mieux respirer, on sait que là, le virus peut survivre 3 heures dans l'air. En revanche, à l'air libre, tel quel, le virus retombe immédiatement au sol et il n'y a pas de risque de contamination si quelqu'un est passé par hasard juste là. Néanmoins, ce qu'on peut conseiller aux gens, c'est de renouveler l'air de la maison et donc d'aérer, même en cette période. On fait 1 à 2 fois par jour, 5 à 10 minutes. N'oubliez pas qu'en plus de ça, les perturbateurs endocriniens se retrouvent dans la poussière essentiellement, même si effectivement on parle que du coronavirus, mais il faut quand même renouveler l'air et au moins aérer 2 fois par jour l'appartement.
Les fenêtres grandes ouvertes, donc docteur Jimmy Mohamed. On a une question Twitter via Anissa.
Oui, effectivement, c'est une question d'Audrey avec le hashtag Radio Ouverte. Elle dit « Je n'ai qu'un masque FFP2 que j'utilise à chaque fois que je dois sortir, soit faire des courses, soit promener mon chien. Est-il toujours efficace à chaque fois ?»
Alors, bon, je sais que c'est une période compliquée où chacun veut évidemment se protéger. J'aimerais rappeler aux gens que le masque FFP2 est réservé au personnel soignant. Donc, si jamais vous en avez essayé, on demande souvent comment aider l'hôpital, comment aider les médecins, les soignants. Je pense que vous pouvez le donner à une infirmière, à une aide-soignante, une aide à domicile ou ramener à votre pharmacien. Ensuite, si le masque n'est pas porté en continu, le problème, c'est que lorsque vous le gardez, par exemple, 4 heures d'affilée, à ce moment-là, l'humidité fait que le masque devient plus poreux et à ce moment-là, il est moins efficace. Donc, ce qu'on peut faire, si on veut, entre guillemets, prolonger sa durée de vie, c'est de le mettre à sécher, tout simplement, sur le radiateur. Ça permet d'éviter que l'humidité rende le masque plus poreux. Mais encore une fois, si vous avez des masques FFP2, les soignants en ont besoin. On manque de masques, on manque de beaucoup de choses. Même, vous savez, dans les laboratoires en biologie, lorsqu'ils font des prélèvements, les personnels ne sont pas protégés. Ils n'ont pas assez de masques et du coup, ils ne peuvent pas faire des prélèvements et faire notamment des diagnostics de coronavirus. Donc voilà, vraiment, si vous avez des masques FFP2, donnez-les. Vous souffrez, à mon avis, vous allez aider beaucoup de personnes.
Exactement, parce que c'est pas la peine d'applaudir si on garde les masques à la maison, c'est pas la peine de sortir sur les balcons à 20h. Hein. Merci beaucoup docteur Jimmy Mohamed, merci. On va vous retrouver évidemment sur l'antenne d'Europe 1 dès lundi dans la matinale de Mathieu Béliard avec Raphaël Duchemin également chez Mélanie Gomez et puis dans le 18h-20h votre grand journal du soir. Merci beaucoup, merci chaque soir
merci
de nous éclairer. Nicolas Caro, Nicolas bonsoir. Caro, bonsoir à vous Nathalie. De chez vous. Bah, écoutez, ça va bien, ça va aller encore mieux quand vous allez nous dire exactement ce qui peut être de la bonne lecture pour ce week-end, n'est-ce pas? Avec des livres à redécouvrir.
Le grand intérêt des livres, des romans en particulier, c'est qu'ils nous donnent la possibilité de nous évader. C'est un peu banal de le dire, un peu gnangnan, mais c'est vrai quand même. Et donc ce soir, j'évite de vous parler de Huis clos de Jean-Paul Sartre, ou encore moins des Mains sales. J'ai beaucoup mieux pour la circonstance. Un grand classique d'abord, Robinson Crusoe. Ça fait partie de ces grands monuments de la littérature que l'on croit connaître quand on ne l'a pas lu grâce aux adaptations au cinéma et parce que c'est une histoire intégrée dans l'imaginaire collectif. Mais ça vaut le coup de le lire pour de bon. C'est de la pure aventure et c'est aussi un grand roman sur la solitude, l'humain face à lui-même, et c'est aussi un roman d'espoir.
Bon, alors celui-là en priorité, prendre la mer, c'est une bonne idée, c'est vrai, hein, pour s'évader un peu. Hein.
Et oui, et justement, j'en ai un autre beaucoup moins connu, un roman anglais des années 50. C'était un best-seller à l'époque. On l'a un peu oublié de nos jours, même s'il est republié régulièrement. Ce sont les aventures du capitaine Hornblower, signé Cecil Scott Forester. C'est l'histoire d'un jeune anglais de 17 ans, un peu falot, pas très costaud, mais très intelligent. Et il s'engage dans la marine sans trop de conviction. On est au début du 19e siècle, en pleine guerre napoléonienne. Les Anglais se battent donc contre les Français, entre autres. Les batailles navales sont très violentes et la vie sur un navire militaire, c'est très dur. Et voici donc notre héros, Hornblower, plongé là-dedans. Le problème, c'est qu'il a le mal de mer, pas évident pour ce genre d'aventure. Et puis donc, il n'est pas tellement imposant physiquement, c'est donc compliqué de se faire respecter et d'être un héros. Mais il s'en sort toujours grâce précisément à son intelligence. Il y a 11 tomes, à chaque fois il monte en grade. Ça commence par aspirant de marine, puis lieutenant de marine, etc. Il termine amiral, c'est complètement addictif et ça vous emmène loin, très loin du confinement. Les aventures d'Hornblower, donc de Cecil Scott Forester.
Je crois qu'il y a même une série télé, hein, en fait, adaptée.
Oui, absolument.
Mais c'est mieux en livre. C'est toujours mieux en livre.
Oui, et enfin, ça ressemble, c'est le feuilleton du 19e, si vous voulez. C'est vraiment addictif comme une série.
Très bien. Alors, un polar aussi.
Eh bien oui, j'ai un bon vieux thriller même, le dernier Grisham. Dans le genre addictif, il se pose là aussi. John Grisham, je vous rappelle, c'est l'affaire Pélican, c'est la firme. Il publie La Sentence chez Jean-Claude Lattès et c'est redoutable d'efficacité. Je vous raconte le début. Nous sommes en 1946 dans le Mississippi au sud des États-Unis. Pete Banning, c'est un héros de guerre. Il vient de rentrer et de retrouver ses deux enfants. Il est riche, il est respecté, apprécié. A priori, tout va bien. Mais à la première page du roman, il se lève à l'aube, il prend son Colt 45, il se rend très tranquillement dans la petite ville voisine, il entre dans l'église et il tue son ami, le pasteur. Il sort toujours aussi tranquille, il croise l'homme à tout faire du presbytère, il lui dit d'aller chercher le shérif, il est arrêté, son avocat arrive, il lui demande pourquoi il a fait ça, réponse, j'ai rien à dire, et qu'est-ce que tu veux plaider ? Non coupable. Voilà, il vous reste 500 pages pour savoir pourquoi il a fait ça, et si et comment il va s'en sortir.
Oh là là. Bon bah très bien. Donc avec ça, on est largement paré pour ce week-end. Merci beaucoup Nicolas Caro. On vous retrouve ce week-end d'ailleurs sur l'antenne d'Europe 1.
Dimanche dans La Voix Libre à 14h.
La Voix Libre. Mmh. Exactement. Merci à vous. De la musique encore avec vous Angèle Châtelier. Bonsoir Angèle.
Oui, bonsoir.
On va être au balcon là ce soir dans un instant ou presque. Alors ce soir vous êtes passé DJ?
Bah alors en tout cas on peut tous le faire si on veut passer DJ ce soir. C'est vous qui pouvez être au platine. Deux acteurs de la vie de la musique électronique, Benjamin Charvet et Mazen Nasri, ont créé l'événement La Fête au balcon. Ils invitent les artistes et vous aussi à faire un concert, à chanter, un karaoké si vous voulez, ou juste écouter depuis vos balcons et fenêtres ce soir à partir de 20h. Donc c'est tout bientôt jusqu'à 21h.
Mais alors
si vous êtes plutôt chanson douce, hein, c'est sur la Blogothèque qu'il faut compter. C'est un collectif qui propose régulièrement des concerts en ligne et ce soir, demain et jusqu'à nouvel ordre, ils inviteront à partir de 19h sur leur compte Instagram un artiste et même un groupe différent à jouer depuis chez eux. Dimanche, par exemple, ce sera Andrew Bird. Et à défaut faut de pouvoir y retourner. Pour l'instant, sachez aussi qu'Arte Concert a remis en ligne de nombreux lives d'artistes, Iggy Pop, Blondie ou encore Tina Turner en concert aux Pays-Bas, c'était en 2008. Artistes continuent à sortir des albums. Alors si vous voulez écouter des nouveautés musicales de cette semaine, deux albums en particulier sont sortis, celui de la chanteuse Yael Naïm. Et dans un autre genre, il y a aussi le nouvel album du crooner britannique Buster Derry. Some people like to show, some people like to watch, and I watch a bit too much, but you show too much. Voilà, il y a de quoi faire quand même en musique ce week-end.
Eh oui, on est paré, on a ce qu'il faut en livre, on a ce qu'il faut en musique. Merci à vous, Angèle Châtelier, spécialiste de musique d'Europe 1. On va se retrouver dans un tout petit instant. Europe 1 3921, le hashtag sur Twitter, radio ouverte. Restez avec nous, on va applaudir. Hein. À 20h, vous serez au rendez-vous. On se retrouve dans une seconde.
Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec vous Nathalie Lévy et avec toutes vos réactions au 39-21, vos questions avec le hashtag Radio Ouverte sur Twitter. Je vous rappelle que tous les bénéfices de vos appels au 39-21 sont reversés à l'Institut Pasteur. Et Nathalie, vous nous donnez beaucoup de bons conseils pour passer le premier week-end confiné agréable. Et comme chaque vendredi, eh ben on est gourmande.
On est gourmand de musique, on est gourmand de livres, on est gourmand de tout finalement. Et ce soir, Thierry Giffrontin, c'est vous plutôt qui allez nous donner des bons conseils et des bonnes idées, parce que moi, j'ai pas grand chose pour l'instant à me mettre sous la main, si ce n'est ceux de Nicolas Carreau et d'Angèle Châtelier. Bonsoir à vous, Thierry.
Bonsoir à tous.
Alors, qu'est-ce que vous nous proposez si on est plutôt amateur de musique classique, etc., etc. On a une plateforme qui peut faire le job pour nous?
Eh bien, comme tout le monde, ou presque à Europe 1, je suis chez moi et j'en profite pour faire une cure de concert sur Internet. Et parmi tous les sites qui vous proposent gratuitement, je dis bien gratuitement, des spectacles, je voudrais vous recommander celui de la Philharmonie de Paris. Les archives de la Philharmonie sont un vrai trésor, je dois le dire. On trouve sur la plateforme tout style de musique classique, du grandiose avec Berlioz et sa symphonie fantastique. Purcell, un compositeur anglais du XVIIe siècle, réorchestré par Britten, un compositeur anglais du XXe siècle. De la musique baroque avec Monteverdi, interprété par les Arts Florissants. Musique vocale, musique symphonique, musique de chambre, musique contemporaine, il y en a vraiment pour tous les goûts.
J'assiste quand même sur la plateforme de la Philharmonie de Paris, Thierry, franchement.
Ah, non. Il y a aussi du jazz, des musiques du monde. Alors pour le jazz, j'ai choisi pour vous McCoy Tyner, un pianiste américain. Le jazz, donc, est pour vous faire voyager en restant dans votre fauteuil, un peu de musique réunionnaise avec un concert donné par les tambours d'outre-mer.
C'est bien.
Hein.
ambiance, quelle ambiance. La chaleur dans le salon.
Tu la vois, Nathalie, là, en train de danser dans son salon.
Voilà. Alors, on est en direct, tout va bien, c'est ça. Ça fait partie de ce qu'on transmet chaque soir. C'est de la vie, c'est de l'envie, c'est du sourire, avec de l'information, bien sûr. Mais vous voyez, à distance, évidemment, il y a ces petits bugs de la technique, mais qui, sans doute,
vous font sourire les off,
chez vous, n'est-ce pas?
Vous
voilà, c'est
les
ça,
off,
les off,
ça.
C'est typiquement ça. Nous, on aime bien. Alors, voilà, merci beaucoup, Thierry Geffrotin. On a voyagé en musique, dans notre salon, on a dansé, on a swingé et après ça, bah, on a faim, forcément. Et n'est-ce pas Marion Sauveur? Salut Marion.
Bonsoir.
Bah voilà, vous êtes chez vous, vous aussi, peut-être
oui.
En cuisine, là, ou pas loin. Et
pas
vous avez plein
loin,
de
oui.
choses. Vous avez plein de choses à nous proposer pour ce week-end. Hein. Et même
si
avec les enfants.
Mais oui, bien sûr. Si je vous dis farine, sel, eau, on a tous à peu près ces ingrédients à la maison. Alors si on faisait du pain avec, ça vous dit?
Ah oui, ah, mais très bien. C'est facile.
Ah ouais. Oui, c'est pas très difficile. L'idée, c'est pas de concurrencer le boulanger, mais de cuisiner en s'amusant en famille. Et tout le monde peut mettre la main à la pâte. On peut faire des pains plats, par exemple, comme les pains pita. On va mélanger la farine avec le sel, ajouter de l'eau tiède petit à petit. On va former une boule qu'on va séparer en plusieurs petites boules, qu'on va aplatir à la main. Ça, laissez les enfants faire, c'est très sympa à faire. Ensuite, on passe chaque boule à la cuisson, un pain après l'autre. Il faut faire dorer les deux côtés. Et quand c'est cuit, ben, il reste plus qu'à garnir ces petits pains. C'est sympa par exemple avec des rillettes de thon ou des rillettes de sardines maison. Ça, c'est très simple à faire aussi.
Génial. Alors, j'ai ma petite à côté de moi pour tout vous dire. Elle est là très attentive. Elle va commencer avant moi. Si on a de la levure chimique, on peut faire du pain comme chez le boulanger?
Et non, il faudrait de la levure boulangère pour faire une belle baguette. Mais on peut faire des petits pains individuels quand même. On va mélanger la farine avec toujours donc le sel, mais aussi la levure chimique. On rajoute l'eau comme tout à l'heure. Ça, c'est une base. Vous pouvez y ajouter d'autres ingrédients comme des graines de sésame ou des fruits secs en fonction de vos goûts. Et puis, ces petites boules de pain, vous les posez sur la plaque de cuisson, sur du papier sulfurisé. Vous pouvez badigeonner d'un peu de beurre pour aider à les dorer un petit peu au four. Et ça va prendre un petit peu de temps. Il faut bien surveiller la cuisson, mais vous aurez cette bonne odeur de pain chaud qui sort du four. Alors ça, je salive déjà. Hein.
Et puis, ouais,
avec ces petits pains nature, vous pourrez faire des burgers à la maison, par exemple, si vous avez des steaks hachés, c'est tout simple.
Elle est ok, Faustine. Pour le goûter, on peut même faire des brioches, il paraît. J'ai entendu ça quelque part.
Si vous avez en plus du sucre et des œufs, mieux encore de la crème fraîche, ce sera encore plus goûtu. Alors ce sera pas la brioche du boulanger non plus, hein. Mais c'est génial de faire sa brioche maison avec, pour les plus gourmands, peut-être des pépites de chocolat. Vous concassez des morceaux de tablettes qu'on a tous à la maison dans nos placards. Oui. On met tout dans le moule à cake bien beurré. On badigeonne la brioche d'un jaune d'œuf et c'est parti au four. Et puis s'il en reste, Nathalie, un petit peu séché quelques jours après, on passe les tranches de brioche à la poêle avec du beurre et on en fait des brioches perdues, tout simplement.
Trop bien. Mais c'est pas avec ça qu'on va revenir svelte, dites-moi.
Mais non, c'est pas l'objectif, il faut s'amuser ce week-end.
C'est ça, exactement. Après, on fait le tour du canapé, sinon. Merci beaucoup, Marion Sauveur, on aime beaucoup. Ça nous a donné faim, c'est l'heure, plus que l'heure de l'apéro, mais c'est surtout l'heure d'aller applaudir. Merci, on vous retrouve demain, aux côtés de Laurent Mariotte, à partir de 11h sur Europe 1. Regardez, on ouvre les fenêtres, allons-y. On ouvre les fenêtres parce que, pour les personnels soignants, vous allez entendre... Attendez, je m'approche de mon balcon, je vous dis tout. Pour les personnels soignants, pour les pharmaciens, pour les éboueurs, pour les caissiers, pour les commerçants, parce qu'ils nous nourrissent. Regardez, on est là ce soir encore, au rendez-vous sur Europe 1. On a la technique, vous entendez? C'est partout en France que ça se fait. Et ça s'est diffusé, et cette vague-là, on l'aime. Regardez, regardez. Personne dans la rue, personne sur les trottoirs, personne dans les voitures, mais tout le monde a bien entendu le message et tout le monde est à sa fenêtre. Petits et grands, confinés, mais bien présents. Bien présents pour soutenir ces soignants, ces infirmières, ces médecins, ces pharmaciens, ces pompiers, ces ambulanciers. Ils ont besoin de vous. Continuez à rester chez vous, confinés. Merci à tous de nous avoir suivis.